When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Vous l'aurez compris, ambiance explosive, je veux bien le dire ainsi, au sein de l'hémicycle, lorsqu'Elisabeth Borne a confirmé ce qu'on pressentait depuis maintenant un certain nombre de minutes, à savoir l'enclenchement du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites avec un hémicycle chauffé à blanc, l'Assemblée nationale, dont vous avez vu certains parlementaires quitter séance tenante l'hémicycle du Palais Bourbon, à savoir les députés de la NUPES, et qui avant entonné une Marseillaise à tue-tête pour couvrir les propos d'Elisabeth Borne qui en venait lentement à annoncer donc l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Je suis sur ce plateau en compagnie de Céline Pina. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Frédéric Durand est là également, directeur de l'Inspiration politique. Merci à vous pour décrypter cette actualité. C'est la fin d'un long suspense, ainsi que Jean-Claude Dacier. Le compte n'y était pas. Donc voilà, Emmanuel Macron a convoqué un Conseil des ministres en toute fin d'après-midi, juste avant qu'Elisabeth Borne ne rejoigne l'Assemblée nationale. Et là, le suspense a pris fin, bien évidemment. Cela fait déjà une demi-heure qu'on savait quelle serait l'issue de toute cette séquence qui a duré quand même un mois et demi. Premier commentaire peut-être sur ce qui vient de se dérouler dans l'hémicycle. Céline, comme ça à chaud, pour vous aussi.
C'est un échec.
Alors on va écouter, pardon, je vous interromps, il y a beaucoup de réactions en direct. Fabien Roussel, pour commencer.
Et complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. Et aujourd'hui, la suite, c'est le RIP, le référendum que nous allons déposer, défendre. Et pendant les 9 mois qui vont suivre, pour obtenir ces 4 millions de signatures, cette réforme devra être suspendue. Et donc nous avons encore l'espoir de l'emporter, de faire respecter le monde du travail et de créer les conditions que cette réforme ne soit jamais mise en application en rendant le pouvoir au peuple. Mais la motion de censure est prête. Nous créerons tout.
Voilà, cette mauvaise qualité d'image et de son également nous oblige à revenir pour commenter ensemble ce 49-3 qui a donc été enclenché par l'exécutif pour le passage en force, comme on dit, du texte sur la réforme des retraites. Un mot sur ce que vous avez vu dans l'hémicycle, on parlera après de la suite puisque on l'imagine bien, ils ont 24 heures, les oppositions, pour déposer une motion de censure. On verra ce que ça donnera, sachant que la NUPES s'est d'ailleurs opposée à la participation du RN à cette motion de censure. Céline, votre sentiment sur cette ambiance qui a régné tout au long d'ailleurs de la séquence?
Mais en fait, c'est un échec pour le gouvernement parce que jusqu'en dernière minute, on a pensé que le vote était possible. Et en fait, il paraissait d'autant plus possible que le Sénat a voté massivement et que LR paraissait en fait en soutien du gouvernement sur ce texte et avait obtenu un certain
nombre... Ils ont eu les gages nécessaires.
Voilà, un certain nombre d'avancées. Donc la question, c'est que s'est-il passé à l'Assemblée? Parce que sur un tel recul, on ne le fait que quand on est vraiment sûr de ne pas avoir son nombre de voix. C'est d'autant plus étonnant qu'il aurait pu être négocié des abstentions. Il suffit que vous ayez suffisamment d'abstentions, ça crée une forme de majorité relative et le texte passe. Donc là, on se demande vraiment ce qui s'est passé au niveau des LR d'une part, et si à l'intérieur de Renaissance, les choses étaient si tenues que ça. Donc en tout cas, c'est un aveu de faiblesse extrêmement fort du gouvernement qui, sur un texte qui est central pour lui, n'arrive pas à obtenir une majorité. Et après, c'est le cirque habituel, c'est-à-dire que ce qu'on voit là à l'image, on n'a pas le droit à l'intérieur d'un Parlement de brandir des affiches ou des choses comme ça, tout simplement parce que spirituellement, la loi doit se faire dans l'indépendance totale d'esprit de chacun de ceux qui la votent. Donc on estime que les cris venant du public à l'intérieur Tout ça, ce sont des choses qui empêchent la loi d'être votée sereinement. Donc ça, en revanche, c'est tout à fait inadmissible. Mais on a vu, la présence de l'Assemblée n'a même pas l'autorité pour faire cesser cela.
Alors, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé précisément et de décrypter aussi cette ambiance et cette Elisabeth Borne conspuée à l'instant avec vous. Élodie Huchard, vous suivez tout cela. La séance, eh bien, forcément, elle a été très rapide, hein, une fois l'allocution de la Première ministre terminée, avec déjà des députés de la NUPES qui quittaient l'hémicycle. Et puis surtout cette Marseillaise qui a retenti plusieurs fois, l'objectif étant de couvrir complètement les propos de la Première ministre.
Oui, une séance très courte, vous le disiez Nelly, et surtout assez chaotique. Hein. Premier en cause d'ailleurs, les ministres eux-mêmes qui étaient en retard. La séance a donc été levée puis suspendue dans la foulée. Et puis à la nouvelle ouverture de séance, vous l'avez dit, les députés, notamment de LFI, parce qu'on a vu beaucoup de socialistes et communistes qui sont restés assis, qui brandissaient des pancartes 64 ans, c'est non, qui ont entonné la Marseillaise. Plusieurs rappels au règlement de la présidente de séance, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. On rappelle qu'un tel comportement est strictement interdit dans le règlement de l'Assemblée nationale. Ils ont pourtant continué, y compris quand la Première ministre parlait. Et effectivement, on voit bien qu'Elisabeth Borne a dû hurler pour tenter de se faire entendre. Et puis évidemment, quelques-unes des phrases d'Elisabeth Borne ont piqué les groupes d'opposition. Par exemple, quand elle dit aux Républicains qu'elle leur rappelle leur cohérence. On rappelle que Valérie Pécresse, dans son programme, la réforme de la retraite, c'était 65 ans. Et ils étaient contre, finalement, partir à 64 ans, ce qui forcément manque un peu de cohérence, selon Elisabeth Borne. Elle a parlé aussi de l'extrême droite et de son mutisme. Ils sont restés tapis dans l'ombre. Et puis elle a parlé aussi évidemment de l'obstruction. Et puis comme un pied de nez, elle justifie ce 49-3 en expliquant qu'on ne parie pas sur les retraites, que c'est un texte trop important pour ça. C'est un argument sans doute bien tenté du côté de la Première ministre. On imagine qu'il ne va pas du tout passer du côté de l'opposition.
Alors justement, la suite possible, quelle est-elle? Elle l'évoquait à demi-mot elle-même tout à l'heure. Tout le monde pense à la motion de censure.
Oui, des motions de censure vont être déposées. Alors, on sait que notamment, par exemple, du côté de la NUPES, la motion était quasiment terminée. Elle peut être déposée relativement rapidement pour comprendre un peu les délais. Chaque groupe qui veut déposer une motion de censure a 24 heures pour le faire. Et ensuite, à partir du moment où elle est déposée officiellement, elle est discutée dans les 48 heures avec quand même une réserve. Nous sommes jeudi. Normalement, l'Assemblée n'ouvrait pas samedi, dimanche. Donc, il est possible qu'en fait, 48 heures, il faille aller jusqu'à lundi pour que cette motion soit défendue et soit éventuellement votée. Alors attention, parce qu'il faudrait forcément une majorité aussi pour voter cette motion. Et du côté des Républicains, qui serait une fois de plus la force d'appoint, Olivier Marleix avait prévenu que ceux qui pouvaient voter une motion de censure avec d'autres groupes n'avaient qu'à aller siéger dans ces groupes-là. Et puis, nouveau pied de nez quand même, quand Elisabeth Borne a expliqué que finalement il y aurait bien un vote sur cette réforme, puisqu'il y aurait un vote sur la motion de censure.
Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis entre-temps, évidemment, on aura les réactions à la sortie dans la salle des quatre colonnes. Frédéric Durand, que vous inspire cet épilogue finalement? Ça veut dire que la situation sociale, syndicale, va se tendre radicalement. On a entendu les représentants syndicaux, on pourra les réécouter tout à l'heure. Ils le présentaient déjà, cet aboutissement, ce 49-3. Là, on enclenche une nouvelle dynamique et une nouvelle séquence dans cette réforme des retraites.
Ben là, je crois qu'on a accumulé les frustrations. On a accumulé les frustrations au Parlement. On a accumulé les frustrations dans la rue, le monde du travail. Donc évidemment, l'épilogue qu'on vient de voir, il correspond à peu près, à mon avis, à se dérouler, à cette succession d'événements qui a fait que le pouvoir n'a pas trop tenu compte, c'est le moins qu'on puisse dire, des oppositions qui se manifestaient à lui. Il n'a pas réouvert le dialogue à aucun moment, notamment sur l'âge de départ à la retraite, puisqu'on sait qu'il n'a même pas cherché à diviser le Front syndical. Il aurait pu se dire, bon, avec la CFDT, on peut toujours essayer de négocier si on revient sur l'âge. Il n'a même pas cherché. Il a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, Macron est, semble-t-il, prêt à sacrifier même son gouvernement pour faire passer cette réforme. Donc voilà, je pense que c'est de la frustration. Frustration y compris, parce qu'il faut rappeler le contexte. Il se passe tout ça parce que le président de la République n'a pas de majorité, enfin, le gouvernement n'a pas de majorité au Parlement. C'est ça la réalité. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il se passe ce qui se passe.
C'est un aveu d'échec de sa politique.
Ben, c'est un aveu d'échec. Et puis, comme il n'a pas eu de majorité, derrière, il a essayé de ramener à l'air dans son camp. Bon, les bras d'honneur n'ont pas aidé du ministre de la Justice, sans doute, mais bon, c'était pas le débat. Mais on voit bien. Alors, je pense qu'elle est un peu hypocrite, Elisabeth Borne, lorsqu'elle le dit, ben finalement, c'est le Parlement qui aura le dernier mot, enfin, c'est la démocratie, puisqu'il y aura la motion de censure. La motion de censure, il est probable qu'elle ne passera pas, parce que LR même s'il n'était pas d'accord avec tous d'accord à la réforme de la retraite, ne votera pas forcément la motion de censure non plus, pour une raison déjà simple, c'est qu'ils ne sont pas prêts, eux, ils ne sont pas en mesure de prendre le pouvoir demain s'il devait y avoir des législatives anticipées.
Donc, ils perdraient sans doute des sièges au passage.
Oui, il y a aussi des calculs politiques derrière, mais la réalité, c'est malgré tout qu'il y a eu Macron a donné le sentiment et le gouvernement de passer en force, ça c'est sûr.
Jean-Claude Dacier, finalement, même si on le rappelle à chaque fois, c'est un outil constitutionnel comme un autre, sinon il ne pourrait pas être enclenché. Est-ce que c'est un déni de démocratie? On y revient à cette question. Bon. Gardez-la en tête. Marine Le Pen est en direct.
C'est une situation de crise aujourd'hui pour vous. C'est une situation de crise pour vous aujourd'hui.
Je n'attends rien d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais rien attendu d'Emmanuel Macron. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Vous voyez, il faudrait que je sois d'une grande naïveté.
Macron. Ah, on n'a vraiment pas de chance. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que je pense que tout le monde se connecte.
Eh oui.
Le réseau bug. On connaît ça. On va essayer de couper la séquence en clean, comme on dit.
La négation
de manière un peu propre. Est-ce qu'on leur donne une chance? Allez, on retente.
En réalité, c'est cela aussi, être président de la République. Je crois qu'il n'y a plus rien à en attendre.
Et on a fait de notre mieux, mais la technique était la plus forte aujourd'hui, assez récalcitrante. Est-ce que c'est une forme de déni de démocratie lorsqu'on s'en prend ou lorsqu'on s'attelle à ce qu'on appelle dans le jargon une réforme sociétale, une réforme structurelle, même si l'outil, on le rappelle, est à disposition et est tout à fait légal?
On ne peut pas appeler ça un déni démocratique ou une captation d'une situation anormale. Mais néanmoins, c'est un problème d'opportunité. Et honnêtement, je ne croyais pas à l'utilisation du 49-3 parce que il y a du monde dans la rue, même s'il y en a beaucoup moins que la CGT ne le prétend. Il y a un problème des retraites qui n'est pas simple, qui est difficile à expliquer. Les Français n'en veulent pas. Bref, utiliser le 49-3 dans une situation politique comme celle-là, je le crains, veut probablement dire que nous entrons dans une période, même si la motion de censure, ce qui est possible ou ce qui est probable, ne soit pas votée fin de semaine ou début de l'autre, même si cette motion de censure n'est pas votée et que Mme Borne continue avec le gouvernement tel qu'il est, je pense que nous entrons, je ne dirais pas jusqu'au mot de chaos démocratique, de chaos politique, mais néanmoins, on ne veut pas qu'on se raconte d'histoire. Le système démocratique français, quand on a vu le spectacle que l'on a vu cet après-midi, même s'il ne faut pas non plus en faire des tonnes, ce n'est pas bon signe pour le fonctionnement de notre démocratie. On est dans un pays qui a besoin de réformes profondes, de décisions impopulaires, comme l'était la réforme des retraites. On n'est pas capable de la faire passer sans outils ou sans moyens, que certes la Constitution offre le 49-3, mais néanmoins, qui va provoquer, évidemment, je le crains, une situation dans le pays qui ne va pas s'éteindre ce soir ou demain ou même la semaine prochaine. Et j'en termine parce qu'on va y revenir. Le responsable, il y en a plusieurs, et beaucoup de choses vont mal dans ce pays. Mais il y a un responsable, c'est le président de la République, qui n'a pas mouillé sa chemise sur cette réforme.
On
et
va
qui aujourd'hui
retourner...
a ce qu'il mérite.
On va retourner à l'Assemblée nationale. Une autre réaction venue de Mathilde Panot pour LFI.
Nous emploierons tous les moyens, évidemment en motion de censure qui sera transpartisane. Évidemment aussi la saisine du Conseil constitutionnel que nous ferons avec la NUPES. Le référendum d'initiative partagée parce qu'il permet de bloquer une réforme pendant 9 mois. Et aussi, évidemment, nous continuerons ce que nous avons fait de manière très forte avec les caisses de grève pour aider les travailleurs et travailleuses qui se font fortement réprimer, comme nous l'avons été ce matin, ou même sur des parlementaires, apparemment, il n'est plus utile de prendre des précautions. Et donc, avec les travailleurs, nous avons été gazés et fortement poussés. Eh bien, nous leur disons que nous allons continuer les caisses de grève qui leur permettent de tenir dans cette bataille. Je vous le dis aujourd'hui, rien n'est fini. Nous allons pouvoir faire en sorte, non seulement le gouvernement a subi une défaite, nous n'avons pas encore la victoire, mais il suffit de continuer un peu face à un régime extrêmement affaibli pour pouvoir l'emporter. Et vous pouvez compter sur les groupes de la NUPES, sur le groupe LFI NUPES aussi, pour continuer ce combat-là dans la rue et avec tous les outils qui sont à notre disposition. C'est ce qu'on va faire avec notre motion de censure, évidemment. Elle-même dit qu'elle est une fusible. Alors, écoutez, Il faut que les macronistes comprennent quelque chose. On ne peut pas avoir un homme seul, le président de la République, qui, pour sauver son ego dans une opération de sauvetage de son ego, gouverne contre tout un peuple. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce 149-3 qui est utilisé, c'est de nouveau la preuve que ce gouvernement est minoritaire et que vous avez un président contre un peuple tout entier. Donc oui, nous présenterons une motion de censure, non pas pour faire joli, mais effectivement pour faire tomber ce gouvernement et la réforme des retraites avec.
Est-ce que vous attendez à une éventuelle dissolution ? Ça fait partie des choses qu'on fait
grandement par... Bah oui, mais écoutez, on aurait eu un vote ici, ça aurait quand même été cocasse. Parce que moi, j'ai saisi aujourd'hui le procureur sur les faits qui sont rapportés dans Le Parisien, qui montre que des ministres, notamment Bruno Le Maire, a appelé des députés LR, alors là c'est sur une députée LR, pour lui demander en quelque sorte d'acheter son vote, de dire que contre de l'argent qui irait à la circonscription, cette députée en l'occurrence pourrait changer son vote, ce qu'elle a refusé. Moi, quand j'entends des accusations comme ça dans la presse, je saisis le procureur, parce que c'est très grave et que c'est pénalement répréhensible. Je l'ai fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je le dis, quand vous avez des pressions telles que celles-ci sur les parlementaires, vous pouvez vous poser des questions, même si on avait été au vote, de comment ça se serait passé.
Vous ne craignez pas une éventuelle dissolution ?
Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils disent dissolution, à votre avis ? Qui a peur de la dissolution aujourd'hui ? Les macronistes, écoutez, c'est normal, ils défendent une réforme des retraites à 64 ans, dont personne ne veut, donc c'est quand même dur de se faire réélire. Et qui craint d'autre une dissolution ? Les LR qui voteraient la réforme, parce que, allez expliquer, lorsque vous avez un LR contre un macroniste, qu'il vaut mieux voter pour un LR qui vote pour 64 ans plutôt qu'un macroniste qui vote pour 64 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, évidemment que cette histoire de dissolution telle qu'elle a été amenée par le président de la République visait à faire peur, à faire pression sur les parlementaires, en plus des pressions dont je parlais tout à l'heure. Mais s'il veut dissoudre, très bien. Nous avons dit une centaine de fois que nous étions prêts. Et je crois que ça serait une bonne occasion pour le pays de réaffirmer que oui, s'ils veulent la retraite à 60 ans, la NUPES est toujours disponible pour gouverner. Merci à vous.
Merci. Frédéric Durand, elle a dit beaucoup de choses à l'instant, Mathilde Panot. Il y a une phrase qui m'a frappée, c'est quand elle dit, bon, outre la motion, on peut en discuter après, c'est sûr qu'elle sera déposée, savoir si elle passe, c'est une autre paire de manches. Elle dit, au fond, c'est l'aveu d'échec d'un homme, Emmanuel Macron, qui a voulu préserver, sauver son égo. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ?
Moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois qu'il y a une réforme que Macron voulait. C'est idéologique. Enfin, c'est pas du tout une question de personne, là. Parce que, comme je le dis, même s'il est prêt à sacrifier son gouvernement pour la faire passer, c'est politique. Voilà. Moi, de toute façon, je n'aime pas les attaques ad hominem en général. Et puis, je ne les trouve pas pertinentes à l'espèce parce que si Mathilde Panot veut combattre un système, elle n'a pas à combattre un homme en particulier. Il y a un système qui veut qu'on allonge la. Alors, par contre, ce qui est plutôt ennuyeux, c'est que quand on voit qu'on ne fait passer à l'Assemblée nationale finalement que les lois, qu'on ne fait voter à l'Assemblée nationale que les lois qui ont une chance d'être votées par la majorité, que toutes les autres on les passe par 49-3, c'est pas un déni de démocratie une fois, deux fois, mais quand on le répète, ça commence à y ressembler parce que les gens se disent ah ben finalement on vote pour des députés, puis c'est une chambre d'enregistrement, puisque quand ils n'ont plus de majorité, eh bien finalement c'est le 49-3 qui gouverne. Donc on a quand même un problème. Alors chaos démocratique, vous avez raison, c'est sans doute trop fort. C'est un peu la chienlit démocratique.
Ben, Rocard l'a fait 28 fois quand même.
Oui, oui. Et c'était
pas une. Il est à gauche, pas. Mais vous
savez. Vous savez, lorsque vous disiez tout à l'heure, il faut prendre des mesures impopulaires, etc.
Je suis d'accord avec vous.
Non, mais moi je suis pas d'accord avec ça justement. Je pense que les mesures. Pourquoi elles sont impopulaires ? Parce que le sont. Les Français sont prêts à accepter des mesures, ils sont prêts à accepter des mesures, même difficiles, même qu'il les faut souffrir s'ils considèrent que c'est juste.
Je vous coupe pour écouter Marine Le Pen à nouveau.
Élection présidentielle. Emmanuel Macron doit être battu et la prochaine alternance doit mettre en place une réforme de retraite beaucoup plus juste, fondée sur un principe qui est que on part à la retraite avec 40 annuités et 60 ans lorsqu'on a démarré avant 20 ans et jusqu'à 42 ans et 62 ans maximum si on a démarré après 20 ans, voilà.
Certains appellent justement à
sans. Mais le référendum d'initiative partagée ne sert strictement à rien. Il sert à forcer l'Assemblée nationale à analyser un texte. Bon, on vient de l'analyser, le texte, et ils ont utilisé 49-3. Donc ça ne sert à rien. Quant à la motion référendaire, le vrai référendum qui consiste à faire décider par les Français sur cette réforme de retraite. Quand nous l'avons proposée, la NUPES a voté contre. Alors qu'ils ne viennent pas aujourd'hui nous parler de référendum. Parce qu'eux aussi, quoi. Il faut un peu arrêter le manège de temps en temps. Mais ça ne me pose aucun problème, moi. Si Emmanuel Macron a envie de dissoudre l'Assemblée nationale, chiche, tant mieux. On retournera devant le peuple. Moi, je n'ai pas peur du peuple. Voilà. Et même, je pense que c'est lui qui, en toutes circonstances, doit en réalité trancher lorsqu'on se retrouve dans une impasse telle que celle-là. Donc, qu'il procède à la dissolution de l'Assemblée, aucune difficulté. Mais bien sûr, c'est inadmissible. Évidemment. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme c'est normalement la nature du 49-3, de forcer la majorité. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça. Eh bien, dans ces conditions, lorsqu'on est confronté à un vote potentiellement contre, ce qui aurait été évidemment le cas, on retire, voilà, on retire. Parce qu'encore une fois, c'est ça la démocratie.
Un homme gouverne, les autres s'exécutent.
C'est un petit peu le sentiment que l'on a, mais ça ne grandit pas le président de la République, car le coupable, c'est lui. Je veux dire, Elisabeth Borne, elle est effectivement infusible dans cette affaire, mais le grand responsable de cela, c'est Emmanuel Macron.
Madame Le Pen, pardon, vous avez
Céline Pina, c'est vrai que cette majorité, revenons à la jeunesse du texte, cette majorité qui devait être recueillie avec tous les gages qui ont été donnés au LR au fil du temps, et y compris hier soir un petit peu à la dernière minute, c'est le résultat d'une mauvaise présentation du texte, d'un déficit pour convaincre, d'un texte mal ficelé. Finalement, il s'est mis dedans tout seul, le gouvernement ?
Ah oui, là, il s'est quand même mis dedans tout seul. D'abord, il n'a pas écouté grand monde, comme d'habitude. Mais surtout, je pense que la situation dans laquelle on est au Parlement correspond à la situation de la France. C'est-à-dire que cette forme d'impasse dans laquelle, à la fois, vous n'avez pas de majorité pour faire des réformes, mais des oppositions qui ne sont pas capables de proposer un autre chemin et un autre gouvernement, fait qu'on est complètement dans l'impasse, parce que tout le monde est hypocrite dans cette histoire. Bien sûr qu'a priori, la motion de censure ne sera pas votée. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où toute une partie de l'hémicycle, notamment le RN, si la NUPES refuse de voter avec le RN, aucune motion de censure ne peut passer. Mais dans le même temps, si la NUPES vote avec le RN, ils sont tellement aux antipodes qu'ils ne peuvent pas proposer en fait un gouvernement alternatif. Donc on est dans une situation complètement bloquée. Qui est-ce que ça arrange ? Eh ben, c'est là où il faut revenir à cette fameuse Marseillaise. La Marseillaise, c'est aussi la chanson des révolutionnaires, surtout quand vous la chantez, le point levé, etc. Il y a un désir de chaos d'une partie de l'hémicycle et du monde politique, notamment chez la NUPES et chez LFI, parce qu'elle pense que du chaos, du désordre, de la peur et puis des difficultés économiques qui sont liées à tout ça, peut venir une façon de renverser le gouvernement par la rue. Donc tout le monde aujourd'hui, c'est franchement le bal des hypocrites, parce que tout le monde avait intérêt à la fin que ça se termine mal, sauf le gouvernement qui, lui, s'y est Absolument. Pris comme un manche et se retrouve avec un... C'est le problème du fusil à tirer dans les poings.
Céline a raison, c'est le bal des faux culs, en réalité, pardonnez cette expression. Mais il y a beaucoup de députés qui sont intéressés par ce 49-3. Ils n'auront pas à aller expliquer à leurs électeurs qu'ils étaient pour, qu'ils étaient contre. Ah ben, il y a eu le 49-3, je n'ai pas été en situation de donner mon sentiment et de me donner un vote. Balle des faux culs. Mais je reviens sur ce que je disais rapidement tout à l'heure. Encore une fois, je ne comprends pas le président de la République qui misait gros dans cette aventure. Il a déjà raté la réforme du premier quinquennat, qui était sans doute meilleure que celle-ci, soit dit en passant. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à Mme Borne, qui a beaucoup de qualités, Mme Borne, mais elle est tout ce qu'on veut, sauf une politique. Il n'y a que Attal qui a été capable de tenir un discours politique et de placer le débat au bon niveau. Mme Borne, elle a encore une fois beaucoup de qualités, mais elle est tout sauf une femme politique. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti à l'étranger, sûrement pour faire des choses sans importance. Fallait-il aller 4 jours en arrière ? Et il ne nous a jamais dit pourquoi il était absolument indispensable de voter cette réforme, parce que l'intérêt général commandait qu'on la vote pour, etc. etc. C'était sa réforme. Il ne nous l'a pas expliqué, sauf hier ou avant-hier. Et ce matin encore, il hésite sur deux voies. Hein, on a cru tous que les députés allaient être appelés à voter en prenant leurs responsabilités. Je suis pour ou je suis contre. Et puis finalement, quasiment une demi-heure avant l'échéance du 15h à l'Assemblée nationale, on se précipite, on appelle les ministres, ils reviennent en catastrophe à l'Élysée pour faire le 49-3. Je ne comprends pas l'attitude qui a été celle du président de la République depuis le début. Et je le dis avec regret, parce que je crois que cette réforme, elle va passer quand même. Elle va passer. Mais elle va créer dans le pays une situation qui risque d'être compliquée et durablement.
Trois commentaires. Vous dites situation de crise durable. C'est un peu ce que disait un député Modem. Il vaut mieux une crise politique de quelques semaines si on perd, c'est-à-dire s'il y avait eu un vote solennel, plutôt qu'une crise démocratique pour quelques années si on utilise le 49-3. Vous parliez de chaos social recherché par certains de ces députés dans l'hémicycle. Frédéric Durand, on voit ces images de manifestants aux abords du Palais Bourbon en ce moment, hein, manifestants syndiqués pour beaucoup d'entre eux. On a vu des drapeaux CGT notamment flotter puisque leurs représentants étaient là un petit peu plus tôt pour s'exprimer et prévenir en cas d'activation du 49-3. Est-ce qu'il y a à un moment donné un climat ou un risque d'insurrection sociale, pour reprendre un peu les termes précédents.
Moi, je crois qu'il y a un mélange de deux choses, en réalité, de fatalisme et de résignation, oui, mais qui n'empêche pas une colère rentrée et qui, maintenant, dure. L'exaspération sociale, elle est là depuis un bon moment. Mais c'est minoritaire, des gens qui veulent réellement en découdre, aller au bout, parce que les Français, dans leur ensemble, ne supportent pas la violence, il faut bien se le dire. Ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à la violence. Donc, ceux qui croient être représentatifs du peuple en se montrant violents, je pense qu'ils se trompent. Par contre, il y a une vraie exaspération. Et là, et c'est comme dans toutes les révoltes populaires, je dirais, il y a parfois la goutte d'eau, pas forcément la grosse réforme qui fait peur, mais la goutte d'eau qui peut faire effectivement créer une explosion sociale à partir de quelque chose de très concret. On se souvient avec les Gilets jaunes, par exemple, que ça avait été une taxe sur... il y a des choses très, du quotidien, très concrètes, qui peuvent à un moment donné faire déborder.
En tout là, cas, c'est une grosse étincelle quand même, c'est pas une petite goutte d'eau, je veux dire.
Oui, mais justement, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que c'est une grosse réforme que c'est ça qui va forcément générer. Parfois, ce sont des choses qui paraissent pour le monde médiatique et politique des détails et qui font, qui dans le quotidien des gens comptent beaucoup. Et là, on n'est pas à l'abri parce qu'effectivement, la situation est mûre pour cela si le déclencheur arrivait.
Là, j'en suis pas complètement sûr, mais en revanche, je me souviens, et j'en étais, de ceux qui pensaient qu'après tout, cette Assemblée nationale sans majorité absolue, c'était pour la démocratie quelque chose qui était au fond acceptable. C'était d'ailleurs relativement nouveau. Hein, le règne des Godillots a duré des décennies. On s'était dit, après tout, la vie démocratique va repartir à l'Assemblée nationale. Eh bien, on s'est probablement tous trompés, encore non. C'est passé encore quelques semaines. Mais néanmoins, quand on voit le spectacle auquel on a assisté cet après-midi, et rien n'est dit même sur la motion de censure, car nous avons un homme qui s'appelle M. de Courson. Je ne sais plus très bien ce qu'il pense, M. de Courson. Il est centriste, ex-centriste, bref, on ne sait plus très bien ce qu'il est. Et qui va, lui, à son tour, présenter une motion de censure qui peut en rallier d'autres. Je n'ai pas fait les comptes encore, mais non, on s'installe dans une situation démocratique compliquée. Comment fait-on avec cette Assemblée-là voter les lois indispensables à la réforme et au redémarrage de ce pays? Demain ou dans 15 jours, on va commencer à attaquer l'immigration, ouais. Il va y avoir de l'ambiance.
Un autre morceau. Céline Pina, on parlait de bal des hypocrites tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu aussi eu un jeu de dupes entre les LR et Renaissance dans cette histoire? Alors, jeu de dupes constant qui s'est étiré au fil du temps.
En fait, on peut réellement se le demander. Ça expliquerait aussi une partie de l'énervement manifesté par Elisabeth Borne. En fait, c'est très étonnant ce qui vient de se passer, mais on sait aussi, rappelez-vous ce qui s'est passé il y a vraiment très peu de temps sur Horizon, quant à la proposition de loi sur les peines planchers, où finalement le groupe Horizon a véritablement subi une humiliation de la part de ses partenaires. Ouais, donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous avez de l'expérience politique, vous savez que quand vous êtes dans un moment aussi risqué que celui-là, il faut se faire des ennemis, pas régler ses comptes, accepter de temps en temps d'avaler sa petite couleuvre ou de mettre son mouchoir par-dessus certains désirs. Or, on a aujourd'hui un président qui a été mal élu, qui a été élu contre, pas en pour, qui a en fait un électorat personnel extrêmement réduit et qui fait comme s'il avait une immense légitimité. Le résultat, c'est qu'il ne négocie pas quand il le faut, c'est qu'il n'offre pas les marques de respect qu'il faut et on se retrouve dans cette situation-là.
François Ruffin pour LFI également, en direct depuis l'Assemblée.
faire éclater les fractures.
C'est sa décision à lui tout seul.
Il est évident que c'est la décision aujourd'hui d'un seul homme. Un seul homme qui est à l'Élysée et qui croit qu'à lui tout seul, il peut faire joujou avec le pays. Et bien là, on vient lui dire non. Aujourd'hui, à la démesure, à l'hubris d'un homme tout seul là-haut, il y a un marqueur qui vient dire non, qui vient poser un obstacle à cette folie-là. Parce que c'est une folie de venir dire qu'un seul homme déciderait là-haut qu'on doit faire ça.
Voilà, François Ruffin, c'était un peu inaudible.
Oui,
François Ruffin, Frédéric Durand, qui était un petit peu dans la même veine que ce que disait précédemment Mathilde Panot. Ils ont une cible aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, mais c'est de bonne guerre.
Oui, c'est de bonne guerre. À la fois, je voulais juste répondre sur l'Assemblée Gaudillot, parce qu'effectivement, on a tous pu se poser la question, c'est bien, sauf qu'à succéder à l'Assemblée Gaudillot, le 49-3. Donc, dans les deux cas, le débat n'existe pas. C'est bien ça notre problème, c'est qu'à aucun moment donné, il y a un vrai débat. Mais LR est là, a la clé de beaucoup de choses. Elle a la clé, par exemple, de la motion de censure qui va être examinée lundi, par exemple. Et pourquoi ne se précipite-t-il pas devant les micros, là? Parce que je pense qu'il y a deux postures. Il y a la stratégie Sarkozy, la stratégie Sarkozy qui leur dit, maintenant, il y a assez de points communs pour aller avec Macron, arrêtons les dissensions inutiles, avançons politiquement. Bien. Et puis, il y a une autre stratégie qui est celle notamment de Pradier même, et d'autres, mais qui n'est pas partagée par tous, mais de dire, mais si nous ne représentons plus l'opposition à Macron, quelle est la chance pour nous d'être élus? À ce sens, elle avait raison, Mathilde Panot, sur ça. En tout cas, comment vous allez distinguer à un moment donné? Alors, la posture politique, parce que a priori, il n'y a pas de désaccord de fond. Il y a des désaccords, mais il n'y a pas de désaccords vraiment fondamentaux sur cette réforme des retraites entre LR et Renaissance. Je dirais même qu'il y a peut-être plus de contestation à l'intérieur de Renaissance que chez LR en réalité. Mais le problème, c'est que si... Alors déjà que Macron a fait exploser le paysage politique complètement, parce qu'on est aussi le résultat de ça, attention. OK, il a réussi son coup en faisant exploser le paysage politique.
Ce blocage,
plus de droite,
c'est le dynamitage initial, en fait.
Oui, il y a eu un dynamitage au départ, sauf qu'il faut en assumer les conséquences derrière. Ouais. Et là, il y a incapacité totale de Renaissance à assumer, le dynamitage qu'ils ont produit avec succès au moment des deux élections qui sont suivies. Après la deuxième élection, et là je partage ce que vous disiez, Macron, vous auriez été élu face à Marine Le Pen dans ces circonstances-là.
Mais pourquoi tout le monde dit qu'elle va être élue la prochaine fois?
Ça, je n'en sais rien.
Ah ben
en tout cas,
pourquoi répondez?
Non, mais je ne sais pas, parce que je ne lis pas dans la barre de café. Ce que je sais sur le passé, c'est que il a été effectivement mal élu, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas de Macron, mais voulaient encore moins de Marine Le Pen. Tout ça cumulé, ça fait quand même une crise démocratique et politique dans notre pays, c'est clair.
Revenons quand même à ce qui s'est noué, Jean-Claude, avec les LR. Jusqu'à hier, on a tenté de leur donner des gaz.
C'est la vraie question.
Sur les carrières longues, c'est ce qui tenait quand même à cœur.
Je pense qu'ils vont exploser, le LR, tel qu'ils sont partis, là.
C'est ce
je ne vois plus de compatibilité après le comportement de M. Pradier et de ses amis avec les LR du Sénat de M. Retailleau, entre la tendance Retailleau qui était « on exige le maximum », ils les avaient obtenus, même sur les carrières longues, je trouve, à revoir, mais ils avaient obtenu des choses. Et puis la ligne Pradier, qui est quand même une ligne beaucoup plus agressive, beaucoup plus militante, je ne vois pas comment ces deux lignes-là peuvent continuer de travailler ensemble.
Pradier a déjà été exclu des instances par Éric Ciotti, de
Pardon,
toute façon.
Oui.
Pradier, il a déjà été exclu des instances
oui,
par Éric Ciotti.
Oui, justement, peut-être s'est-il un peu précipité Ciotti, mais il fait un boulot qui est quand même très difficile. Il n'a pas réussi son coup. Mais honnêtement, je pense que globalement, les LR qui étaient globalement sur le fond pour cette loi, avec deux ou trois détails près, ils étaient eux-mêmes pour la retraite à 65 ans. Et ils vont nous expliquer aujourd'hui qu'ils ne votent pas la retraite à 64. Il est temps de remettre de l'ordre dans ce parti s'il doit encore avoir un avenir.
Il y a un petit manque de cohérence avec une Valérie Pécresse qui avait quand même fait campagne autour de
65
ans. En fait, c'est tout simple. C'est que le problème, c'est qu'ils sont devenus illisibles et qu'aujourd'hui, on a l'impression que leur seule viatique, c'est d'aller se vendre à un Macron dont ce qu'on vient de voir, c'est une ambiance de fin de règne. Il commence son mandat, on est déjà dans une ambiance de fin de règne. Donc, espérer être sauvé par quelqu'un qui est en fin de règne, c'est quand même un espoir un peu démesuré. Donc, ils sont extrêmement mal, parce qu'aujourd'hui, si la question est de renouveler un stock d'élus, qu'ils choisissent Macron ou pas, je pense que s'il y a dissolution, ils vont souffrir énormément.
Il faut qu'ils se dotent d'un leader vite.
Oui, avec d'une voix.
Avec un début de mandat aussi catastrophique, la dissolution, on n'y coupera pas à un moment donné, Frédéric.
Bon, la dissolution. Là encore, il faut lire dans la mare de café.
Ça fait un an. Hein. Ça fait à peine un an qu'il est élu.
C'est extrêmement difficile à dire parce que la dissolution dépend pas seulement de la crise politique qu'on traverse là, mais aussi de la posture et de la position des autres partis politiques. C'est-à-dire qu'ils en veulent ou ils en veulent pas. On parlait de LR à l'instant. LR, on n'a aucun intérêt à une dissolution aujourd'hui parce qu'on voit mal. Or, comme c'est la clé et que c'est eux qui disposent finalement du petit patrimoine de voix qu'il leur reste, mais qui peuvent faire un peu la pluie et le beau temps sur ces questions, je pense qu'ils ont tout intérêt à l'empêcher.
Alors, on va revenir à l'aspect social aussi, parce que voilà, on se dit finalement tout ça pour ça, hein, cette séquence d'un mois et demi, elle se conclut ainsi, on se souvient des débats qui duraient jusqu'à 10 heures.
La loi va quand même être votée, en principe.
Très, très avancée. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelle sera maintenant l'attitude des syndicats et de la CFDT en particulier, parce qu'on sait que la clé, elle est quand même détenue par un Laurent Berger. Aujourd'hui, il avait dit, en fonction du vote solennel, du choix du vote solennel ou du 49-3, ce ne sera pas la même derrière. Céline Pina, on le rappelle quand même. C'est toujours important de rappeler ce ratio de soutien, en tout cas de contestation en l'espèce des Français. 70% des Français sont opposés à la réforme, 93% des travailleurs. C'est évidemment énorme, on voit bien le contraste avec l'hémicycle aujourd'hui.
Non mais surtout, Laurent Berger avait dit de façon très claire que s'il y avait un vote, il respecterait le vote. Le 49-3, ce n'est pas un vote. Donc derrière, on peut imaginer que la CFDT peut prendre une position beaucoup plus dure que celle qu'on est habitué à avoir de la part de ce syndicat. Et s'il le fait, ce n'est pas par hasard. C'est parce que de façon très claire, quand ils sont en face de leurs électeurs, ce qui remonte, c'est la volonté de bloquer cette réforme. Donc on va se retrouver avec un président extrêmement isolé, dont la première ministre vient de taper sur tous les groupes de l'Assemblée, dont on sait qu'en interne, il y a des dissensions extrêmement fortes, qui va couper le dialogue quelque part avec les syndicats, parce qu'il les a humiliés quand les syndicats ont demandé finalement d'être reçus en dernière minute. Même si c'était de la comédie sociale, il fallait dire oui à ce moment-là. Et là, Macron n'a plus aucun discours à donner pour se victimiser un tant soit peu. Non, la situation pour le gouvernement est extrêmement compliquée.
Il ne peut pas dire « je vous ai tendu la main à la dernière minute ».
Puisqu'il ne l'a jamais
fait. Mais en plus, je pense que Emmanuel Macron est en train de radicaliser tout le monde autour de lui. Et ça, c'est dangereux, parce que pour apparaître in fine comme le représentant, l'incarnation du cercle de la raison, il provoque tout autour le cercle de la passion, j'allais dire. Sauf que c'est dangereux de faire ça, parce qu'après, on pourra toujours reprocher aux uns aux autres de s'être radicalisés. Mais si on vous écoute jamais, et qui que ce soit, dans quel pays que ce soit, au bout d'un moment, forcément, ça se radicalise. Moi, je dis toujours, pour reconnaître une mauvaise réforme, c'est quand on a du syndicat le plus réformiste au plus révolutionnaire contre soi. Eh bien, on réouvre le dialogue.
Aujourd'hui, l'intersyndicale est intacte, mais on parle aussi, on dit aussi que les Français oscillent entre colère et résignation.
Ils étaient prêts à accepter ces lois, les sondages le disaient, ils étaient contre, parce que 2 ans de boulot en plus, c'est pas très agréable. Ça a été vrai dans toute l'Europe, même s'il n'y a pas eu les mêmes réactions, parce qu'il n'y a pas les mêmes syndicats avec les mêmes discours, mais néanmoins, 2 ans de travail en plus, il n'est pas anormal que les Français soient contre. Néanmoins, vous aviez un pourcentage à peu près équivalent de gens qui pensaient que c'était inéluctable, parce que c'est comme ça, les chiffres le montrent, à l'évidence. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir qu'il n'y a plus d'actifs ou plus assez d'actifs pour payer les retraites, des inactifs, etc. Il y a du boulot. Alors, encore une fois, tel que les choses ont été faites, on est face à une situation où le président, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, est très affaibli. Son gouvernement est très affaibli. Les syndicats sortent à peu près intacts de cette situation. Ils vont en rajouter probablement. Ils vont en rajouter parce que le 49-3, ils ne l'acceptent pas. Et donc la CFDT va courir, courir, ce n'est pas le mot, va durcir encore, comme la CGT, la mobilisation générale. On est parti probablement pour une situation sociale compliquée pour les semaines qui viennent. C'est un bilan catastrophique.
On revient au débat dans quelques instants, mais il est pratiquement 16h à quelques secondes près. Il est l'heure de retrouver Mickaël Dorian pour le reste de l'actualité, dominée évidemment par la politique et la réforme des retraites.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne engage donc la responsabilité de son gouvernement. La première ministre a pris la parole il y a moins d'une heure devant une assemblée nationale chauffée à blanc. Elle a notamment adressé un message aux députés du groupe LR qui, selon elle, n'auraient pas voté selon leur conscience. On l'écoute.
En engageant la responsabilité de son gouvernement, le 15 novembre 1990, lors lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience, permettez-moi de dire que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Ces mots, aujourd'hui, je les fais miens, et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi.
Voilà, Elisabeth Borne, dont les paroles étaient couvertes par les chants des députés de la France Insoumise. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a d'ailleurs réagi. Mathilde Panot appelle à continuer le combat. Écoutez-la.
Si nous avons fait subir une défaite à ce gouvernement, c'est notamment grâce à la mobilisation extraordinaire de celles et ceux qui perdent encore des salaires aujourd'hui et qui continueront de le faire, je l'espère, parce que ce que nous voulons dire avant tout au pays, c'est que le combat est loin d'être fini. Et je veux vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron.
La réaction de Fabien Roussel à présent, le député NUPES du Nord s'en prend lui directement au gouvernement. Selon lui, ce recours au 49-3 rend la réforme des retraites encore plus illégitime. On l'écoute.
Malheureusement, le président de la République fait le choix du 49-3. Il va jusqu'au bout faire en sorte de créer rendre cette réforme encore plus illégitime. C'est terrible, c'est un article de la Constitution, c'est une véritable guillotine qui nous tombe dessus aujourd'hui, qui nous empêche de pouvoir voter. Cette réforme va donc être véritablement illégitime. Il va nous rester un outil qui est aussi à disposition de la Constitution. C'est le référendum, c'est le RIP. Et nous allons devoir nous engager dans une grande bataille populaire avec l'ensemble des syndicats, avec l'ensemble des forces politiques qui seront pour ce référendum. Et pendant les 9 mois qui viennent, nous devrons nous engager dans ce sens-là.
Et puis du côté des syndicats, le secrétaire général de la CFDT a également réagi. Laurent Berger annonce de nouvelles mobilisations en réponse à ce 49-3 pour continuer le combat et faire barrage à la réforme des retraites. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr dans 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
Merci. Actualité évidemment monothématique, vous l'aurez compris, puisque le 49-3 a été enclenché par Elisabeth Borne tout à l'heure. La séance est déjà suspendue à l'Assemblée et on l'a évoqué à l'instant. Ce front syndical plus intact que jamais qui se durcit, qui va se durcir, qui va mener des actions maintenant. Les mobilisations, c'est bien, mais on a vu quand même au fil des manifestations, il y en a eu 8 mobilisations jusqu'à présent contre ce texte, une forme de déperdition quand même dans la rue. Oui. C'est difficile de faire grève dans le contexte actuel avec une inflation galopante. Les gens ne peuvent pas se permettre de perdre trop d'argent.
C'est pour ça que c'est assez inégal comme combat, j'allais dire, parce que d'un côté, Macron et le gouvernement ne perdent pas de pouvoir d'achat. Par contre, les salariés en perdent. Et donc, effectivement, jouer sur cette corde-là, c'est assez cruel, je trouve, par rapport à ceux qui se mobilisent. Mais comme nous le disions, effectivement, comme ils ont eu le sentiment de ne pas avoir été entendus du tout depuis le début, ça risque de se radicaliser. Ce qui serait pire que tout, ce serait finalement de donner raison à ceux qui utilisent la violence, parce que le problème, c'est que quand on vous demande pacifiquement de réouvrir le dialogue, normalement, si vous êtes responsable, et quoi que vous choisissez in fine, vous réouvrez le dialogue. Vous recevez les syndicats quand ils vous demandent d'urgence à être reçus. Parce que sinon, vous donnez raison à ceux qui utilisent la violence. Parce que qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Mais vous y croyez encore, vous regardez, il ne veut même pas vous recevoir, etc. Et donc, on vient renforcer le camp de la passion. Et des passions brutales et violentes dont les Français ne veulent pas dans leur ensemble. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Pour moi, vous savez, le fait qu'il n'ait pas reçu les syndicats, même si ça pouvait être que symbolique, ça, c'est pour moi une erreur politique majeure qui pourrait effectivement justifier derrière la violence en disant, ben nous, vous allez voir, on va l'obtenir, mais on va y aller beaucoup plus fort. Et ça, personne n'a fait. La majorité des Français n'en ont pas envie et risquent de le subir. Ouais. Mais la faute sera à Macron.
Vous êtes d'accord sur cette analyse, c'est-à-dire que
de la même manière, pas non plus très ouvert.
De la même manière que.
Et alors, ils pouvaient être reçus même s'ils étaient
pas ouverts. Oui, mais enfin, c'était pour ne rien dire.
Attendez, pas tous en même temps. De la même manière que le 49-3 était brandi comme le dernier recours, la violence ou l'insurrection sociale sera activée comme un dernier recours aussi. Malgré la volonté pacifique
c'est
des
Français. C'est pas ce que je dis, qu'il pousse à ça en tout cas. Voilà.
En tout cas, il pousse
c'est
à
pas
ça.
Tout à fait pareil.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le camp de la raison, c'est un camp qui n'offre aucune perspective. Autrement dit, c'est un camp qui est dans la raison, qui est dans la gestion. il ne s'inscrit pas dans le temps. Vous pouvez toujours demander des sacrifices aux gens, y compris sur les retraites, si derrière, par exemple, vous pouvez expliquer que vous êtes en train de réindustrialiser le pays, que vous allez offrir des emplois. Oui. Si vous dites aux gens, oui, il y a un moment difficile à passer, mais si vous voulez que vos enfants vivent mieux, voilà ce qu'il va falloir faire. Sauf qu'aujourd'hui, on demande des efforts aux gens et les perspectives qu'on leur offre, c'est une école qui forme de moins en moins mal leurs enfants, très peu de perspectives d'emploi, très peu de perspectives de développement, une France qui est sur le déclin. Donc à un moment donné, ces sacrifices ne débouchent sur aucun avenir ou aucune perspective d'avenir.
On promet des larmes, mais pas de victoire.
C'est ça. Et en fait, politiquement, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et dans le même temps, Macron a fait énormément de promesses au moment du Covid en disant « Voilà ce qu'on va faire pour développer l'industrie. » Si on regarde aujourd'hui les promesses qui ont été faites il y a 2-3 ans, on n'a pas la queue d'une réalisation qui apparaît. Donc, il y a un vrai souci de confiance dans ce gouvernement. Et de l'autre côté, on a une gauche qui s'enferme pour le coup dans l'appel à la violence, qui n'offre aucun débouché, et finalement un RN qui apparaît raisonnable quand on voit tout ce bordel.
Mais en même temps, si on ne peut même pas faire voter cette loi, qui encore une fois a tous les défauts du monde, si on veut, mais qui était nécessaire et indispensable...
Votre point de vue.
Tous les... Mais enfin, écoutez...
Non, c'est pas le mien.
Non, mais d'accord. Sauf que si vous ne voulez pas lutter contre les déficits et remettre les Français un peu au travail, vous ne vous en sortirez pas.
Travail, hein.
Moi, la question que je me pose, c'est... Comment on peut espérer, comment on peut imaginer que l'Assemblée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui sera en mesure de voter des grandes réformes indispensables dont ce pays a besoin s'il veut commencer à se redresser? Les finances publiques, la situation des grands services publics, il y en a partout, de la SNCF, l'EDF, le nucléaire... Partout, il y a des efforts gigantesques à faire et qui ne plairont pas à tout le monde. C'est pas avec cette Assemblée, me semble-t-il, qu'on réussira à commencer à dresser le pays. C'est ça qui m'inquiète.
Dans le 9 français, on rappelle quand même 9 salariés sur 10 proposés.
10 sur 10, mais tous les pays européens ont augmenté leur temps de travail. Nous, on a, il fallait
passer brandi par l'exécutif.
Juste un point. Ben évidemment. Mais comment on l'explique?
Avec des disparités quand même.
Vous vous étonnez de l'attitude de Macron, mais peut-être que les arguments de Macron n'étaient pas si convaincants que ça, et c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas mis en avant. Parce que lorsqu'il y a 10 ans, on l'a dit, il faut passer de 60 à 62 ans. Les Français se disent, ok, on va passer à 62 ans, mais là, c'est le taquet, on ne peut pas aller plus loin, parce qu'après, surtout pour certaines professions, vous savez, moi, j'étais 17 ans ouvrier. Si on m'avait dit de faire des bétonnières jusqu'à 64 ans, j'aurais peut-être contesté. Donc, sur la pénibilité, quasi rien. Sur la pénibilité, quasi rien. Non,
c'est pas vrai.
Sur la pénibilité quasi rien, c'est ridicule ce qui est proposé dans le compte temps. Non, c'est ridicule, franchement. Et donc moi, je comprends très bien qu'une majorité soit contre. Non pas parce qu'ils sont déraisonnables, qu'ils n'ont aucune conscience des déficits publics de la France ou de son départ, mais c'est ce que disait Céline. On leur promet du sang, des larmes et jamais la victoire.
Mais non, ils considèrent que ce sont des avantages acquis et qu'on ne peut pas y toucher.
Non, ce sont des conquêtes sociales. Je vous rappelle qu'à une époque, je vous rappelle que. Mais non, c'est pas du tout ça. Ben, c'est pas du tout ça. C'est parce que les gens ne vivent pas jusqu'à 60. 10 ans, bonne santé, que selon les emplois... Ben oui, mais vous avez l'air de ça, de balayer le revers de la main.
Les femmes...
Moi, je vous dis que la réalité du
monde... Enfin, mais non, vous parlez d'une réalité qui n'existe pas, parce que les femmes vont jusqu'à 85 ans, durée de vie.
Bonne santé, je
ah oui, ça, c'est votre argument. En mauvaise santé.
On se calme un petit peu.
N'en parlons plus, mais vous en savez rien.
On a de fait, en fonction des catégories socio-professionnelles, on a quand même des âges de décès qui sont extrêmement différents.
Chacun son tour, s'il vous plaît, c'est important. Sinon, on rend l'antenne et on fait autre chose, parce que là, on ne vous entend pas. Vraiment, je vous le dis, les gens ne vous entendent pas. Juste, on va essayer de cloisonner un petit peu plus les questions. Il y a aussi cette notion qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Alors, il y a effectivement les 64 ans. Peut-être que certains considéraient que la retraite à 62 ans, c'était une sorte d'avantage acquis. Mais les 64 ans, c'était un casus belli quand même pour les syndicats. C'est-à-dire que même si Emmanuel Macron les avait reçus, il n'aurait jamais plié sur cette notion des 64 ans. Laurent Berger, le premier. Vous savez bien, Frédéric.
La question, pourquoi
donc, le dialogue, il était rompu. Quoi qu'il arrive.
Parlons plus. Moi, je suis pour une retraite ouvrière, pour commencer. C'est-à-dire, je suis pour un régime spécial pour les ouvriers et les employés, les caissières, etc. Donc, régime spécial pour cela, oui. Et il faut assumer complètement que quand on fait un travail difficile, pénible, où on a peu de temps pour profiter de sa retraite, en tout cas, beaucoup moins que dans d'autres
professions. Comme à la SNCF, absolument.
Il leur faut un régime. Non, je parle là de régime spécial d'ouvriers et d'employés, et je l'assume. Bien. Une fois qu'on s'est dit ça, posez-vous la question, pourquoi les cadres de la CFDT, beaucoup de cadres de la CFDT, sont contre aussi. Et c'est là que je dis que Macron joue une mauvaise carte. Parce que on prend la position qui consiste à dire les Français sont des feignants, donc de toute façon, si vous leur demandez de travailler plus, ils ne voudront pas, ce sont des feignasses, donc faisons-le au 49-3 et on a réglé. Bon, une fois qu'on a dit que les Français étaient des feignants, on a tout réglé, c'est sûr. Et pourquoi il y a des millions de jeunes qui ne travaillent pas aujourd'hui et des centaines de milliers de seniors qui ne sont pas reconduits, qui sont mis au placard? Comment vous voulez que les Français comprennent qu'on leur demande de travailler jusqu'à 64 ans, alors que déjà, quand ils arrivent proches, même pas à 64 ans, ils sont déjà foutus au placard.
D'où les dispositions qu'il y avait dans la loi.
C'était quoi
je
la
suis
disposition
d'accord avec vous.
C'est l'index. Qui,
non,
c'est
vous êtes, bon, d'accord.
Non, je ne suis pas borné.
Jamais l'index. Satisfait. Bon.
Non, l'index.
Il y avait un indice. Il y avait un indice.
Un index.
Et il y avait un CDI pour les seniors.
Le CDI
qui était à l'étude pour les 3 années qui viennent.
Pour les entreprises de plus de 1000 salariés.
500.
Merci.
Non, 300. Après.
C'est pas un match. C'est pas un match entre vous. C'est pas juste un face à face. On va intégrer quelqu'un d'autre à notre conversation. En l'occurrence, Cyril Chabanier qui est avec nous à distance. Bonjour, je rappelle que vous êtes le président de la CFTC. J'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Emmanuel Macron en Conseil des ministres pour justifier finalement le déclenchement du 49-3. Il a dit à ses ministres, il y a des risques financiers trop grands dans la balance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et de manière générale, comment réagissez-vous à cet outil qui a été brandi aujourd'hui?
Tout d'abord, les risques financiers ne sont pas trop grands. Le corps l'a bien démontré, il y a dans les perspectives des quelques années qui sont devant nous un déficit qu'on n'a jamais d'ailleurs nié à la CFTC, entre 10 et 15 milliards, pour lequel il faut trouver des solutions. Mais ça ne représente pas un scénario catastrophe pour lequel il fallait légiférer aussi vite et trouver des solutions aussi radicales. Et d'ailleurs, rien ne justifiait qu'il faille faire cette concertation avec les organisations syndicales. En un mois et demi, on avait le temps de se remettre autour de la table et de travailler plus sérieusement et plus longuement. Après, une réaction plus globale, c'est incompréhensible et c'est inadmissible ce passage en force par un 49-3. Moi, je ne remets pas en cause, et à la CFTC, on ne remet pas en cause le fait que ce soit légal et que ce soit constitutionnel. Mais on a un problème sur l'accumulation de ces mesures. On arrive devant l'Assemblée nationale avec une procédure accélérée, le 47-1. C'est déjà une procédure qui est très peu souvent utilisée. Derrière, on va au Sénat et on utilise le 44-2 pour faire un vote bloqué. Et à la fin, en deuxième lecture, on fait un 49-3. Enfin, au bout d'un moment, l'accumulation de toutes ces procédures constitutionnelles, ça pose un problème de légitimité et ça pose un problème de démocratie sociale, évidemment. Et donc aujourd'hui, et on voyait hier d'ailleurs dans le cortège, que ce soit nos militants ou les concitoyens qu'on croisait, ils nous parlaient que de ça. Comment un texte comme les retraites peut passer en force par un 49-3 après toutes les procédures qui ont déjà été utilisées dans les deux assemblées.
Merci beaucoup Cyril Chabanier pour votre réponse en direct. Les images que vous apercevez sur l'écran, ce sont celles de blocages qui sont en train de s'organiser assez spontanément du côté de la place de la Concorde. On est sur les quais de Seine, non loin de la place de la Concorde, et vous voyez ces voitures qui ont été bloquées dans le trafic parce qu'il y a un certain nombre de manifestants à pied. Jeanne Cancard, vous êtes sur place, racontez-nous.
Merci à vous.
Racontez-nous ce qui s'est passé.
Oui, Nelly, plusieurs centaines de manifestants qui sont présents ici vers cette place de la Concorde et quelques-uns d'entre eux qui bloquent tout simplement la circulation ici sur les quais. Vous le voyez, des barrières ont été installées, disposées ici pour justement bloquer la circulation des voitures qui voulaient passer ici sous le tunnel. Et vous allez voir là à l'instant à l'image les forces de l'ordre qui se dirigent justement vers ces manifestants. Certainement vont-ils essayer de tenter de débloquer cette circulation des manifestants qui pour la plupart étaient tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont manifesté devant le Palais Bourbon pendant que vous voyez en ce moment en direct sur ces images donc les policiers, les forces de l'ordre qui sont en train d'enlever les barricades qui avaient été érigées par les manifestants, pour certains donc je vous le disais, qui étaient devant l'Assemblée nationale tout à l'heure pour manifester, protester contre cette réforme des retraites. Et là en ce moment donc les forces de l'ordre qui tentent au maximum de dégager sous évidemment les insultes et les huées de certains manifestants, éléments un petit peu plus radicaux qui ont tenté de bloquer le passage ici. On le voit aussi avec des chaises du parc qui est juste voisin à l'endroit où nous trouvons, des slogans qui sont scandés. On a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron démission. Ils veulent continuer à poursuivre le mouvement. Là, on le voit, cette façon fait de façon un petit peu plus radicale, même si on ne sait pas exactement qui sont les manifestants qui ont participé à ce blocage. Toujours est-il qu'ici, place de la Concorde, eh bien, c'est ce qu'ils veulent montrer aujourd'hui, les manifestants. Ils veulent montrer leur colère, leur mécontentement face à l'activation de l'article 49.3 et justement leur détermination à poursuivre ce mouvement.
Et parmi ces manifestants aujourd'hui, il y a aussi, c'est ce que vous apercevez en bas à droite, en petit écran pour l'instant, mais on va vous le montrer dans un plan un petit peu plus large. Regardez, devant l'Assemblée nationale et qui a traversé le pont qui fait face à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés de LFI qui sont aux abords de la place de la Concorde. Ils sont au tout début de la place de la Concorde, à vrai dire, non loin de l'endroit d'ailleurs qui a été bloqué par les manifestants, non loin des barricades qui empêchaient les voitures de passer. Ils sont venus en soutien de ces leaders syndicaux. Voilà, la politique qui ne peut plus s'exprimer maintenant dans l'hémicycle et qui rejoint la contestation à nouveau sociale dans la rue.
Monsieur Mélenchon. Il a touché le fruit, ramassé le fruit de son succès.
Céline Pina, évidemment. Que vous inspirent ces images? Je ne vais pas vous donner la parole tout de suite, Frédéric Durand, parce que vous allez, vous serez complètement d'accord avec cette manifestation spontanée, sans doute. Mais...
En fait, je ne pense pas forcément, parce que justement, aujourd'hui, on voit pas très bien sur quelle jonction pourrait se faire le mouvement syndical et la LFI qu'incarne Mélenchon. Ce sont des gens qui sont dans des postures extrêmement sociétales, qui ont beaucoup abandonné toutes les questions liées à la lutte des classes, liées à l'amélioration des conditions de travail, qui ont déserté le champ du social pour investir celui du sociétal et du racial, et qui sont en partie les artisans à la fois d'une forme de violence qui monte et d'une absence de débouchés de droits sociaux et de combats sociaux. Donc pour moi, ils ne méritent qu'une seule chose, c'est être expulsés de ces cortèges. C'est la gauche qui tue la social-démocratie, c'est la gauche qui tue les avancées économiques et sociales au nom du racial et d'une hystérie identitaire. Et je crois profondément que ce que les syndicats sont en droit d'attendre, et les Français aussi, ce serait une gauche républicaine. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas incarnée et elle n'est pas représentée.
Et Frédéric Durand, ces images de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs députés LFI avec leur écharpe de députés, ça vous inspire quoi? C'est le moment? C'est pas le moment? Alors, c'est un symbole comme un autre?
Je veux dire, d'abord, ça se passe à Paris, mais ça commence à se passer dans plusieurs villes de province, dès maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne mesure pas. Il y a beaucoup de Français qui sont allés manifester depuis un mois et demi, qui sont allés dans la rue, etc. Et là, on leur oppose un 49-3 à tout cela aussi, finalement. Et tout cela, il y a une très violente, parce que c'est une violence symbolique énorme, ce 49-3. Les gens ne connaissent pas dans le détail les réformes, enfin, les procédures institutionnelles. Mais par contre, ils savent que le 49-3, c'est effectivement le couperet qui tombe. Il n'y a plus de débat, c'est fini, ça passe. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on s'en moque d'une certaine manière. Plus le fait qu'effectivement, Emmanuel Macron s'est très peu exprimé, qu'il a laissé monter Elisabeth Borne, Dussopt, qui n'étaient pas les mieux, je dirais, qui ont été maladroits à maintes reprises sur le dossier. Donc, les gens se sentent extrêmement frustrés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'écoute aurait permis d'éviter la violence et ce type de manifestation spontanée. Le dialogue, même si c'était, comme vous le disiez, pour rien se dire ou pas grand-chose.
Vous y croyez vraiment, même pour la forme?
Ça
aurait changé les choses.
La forme, les gens, ils sont quand même sensibles au fait que la forme qu'a pris cette histoire de loi avec un 49-3 à la fin, ça leur convient pas du tout. Et ils se disent, finalement, le pouvoir est autoritaire, soyons violents en face de la violence symbolique qu'on nous impose, on risque d'avoir de la violence réelle.
Je comprends qu'à la fin, le président de la République ait hésité à recevoir les syndicats, on était à quelques heures ou à quelques jours du débat parlementaire. Moi, le reproche que je lui fais au président, c'est depuis le début. Quand on mise aussi gros et aussi fort sur une réforme des retraites dont on estime qu'elle est indispensable pour augmenter la puissance de travail et donc la richesse du pays et faire baisser l'emploi, quand on est sur ces bases-là, on vient le dire au pays, on vient l'expliquer en acceptant l'idée que ça ne sera pas formidable pour tout le monde, tenant compte des problèmes de pénibilité du travail, etc. Il y a des choses à dire et à faire. Il ne les a pas faites, il ne les a pas dites. Il a laissé le Premier ministre, qui a bien du mérite, Madame Borne, mais je ne sais pas lui faire insulte que de dire qu'elle n'a pas de discours politique. Et donc, M. Dussopt a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas non plus été d'une... d'une efficacité redoutable. Résultat des courses, le matin à 10h, on ne sait pas si on vote tranquillement à l'Assemblée nationale ou si on utilise le 49-3. C'est un gâchis considérable et qui aura des conséquences sur tous les plans. Fonctionnement démocratique, climat social et j'en oublie.
Et toujours Jean-Luc Mélenchon, pardon, je commente les images aussi parce que c'est important, ça se joue en direct. Jean-Luc Mélenchon qui continue, voilà, de faire des photos hop, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de poser, de faire des photos avec les députés de la formation LFI devant l'Assemblée nationale en ce jour de 49-3. Bon, voilà, c'est tout ça, c'est pour le symbole, y compris Adrien Quatennens, ce que vous apercevez sur la droite de l'écran, qui a été intégré au groupe aujourd'hui, un groupe emmené donc par Mathilde Panot, vous la voyez sur ces images, et puis Jean-Luc Mélenchon qui s'est donc joint à ce cortège. Puisqu'on parle de LFI, on a plusieurs réactions hein, aujourd'hui, on les a beaucoup entendues, beaucoup plus d'ailleurs que les autres. Les LR étaient inaudibles, vous le rappeliez. François Ruffin, qu'on a retrouvé dans une version un peu plus clean de son sonore.
Il y a motion de censure et je pense que tout le monde, toutes les oppositions seront rassemblées pour aller voter contre ce gouvernement-là. Mais la question, il y a quand même, c'est pas terminé dehors. Cette réforme, elle est illégitime. Mais c'est plus largement le président de la République qui est aujourd'hui illégitime. Et donc il est évident que dehors, il va y avoir des nouvelles mobilisations. Il va y avoir des nouvelles grèves, il va y avoir des nouvelles luttes et il va y avoir ce qui se passe aussi ici dans l'hémicycle où il y a un nom très fort qui va être posé.
Voilà, on envisage déjà la suite.
Tout ça n'est pas très bon signe quand même, parce que ça c'est la mise en cause de l'élection présidentielle. Le président au fond n'est pas légitime, il n'ose pas trop le dire, mais il n'est pas légitime puisqu'il a d'abord été, ça a d'abord été son élection, le succès de la lutte anti-Le Pen, que l'adhésion à Macron. Si on entre dans ce schéma-là, et c'est pas le seul, il y a aussi des déclarations de violence qui sont inacceptables, il y a des mises en cause de la représentation nationale qui est inacceptable. Ça sent pas bon le discours que tiennent les gens de la NUPES et quelques autres. On parle beaucoup de la 6e République. Il n'y a pas eu une phrase ou deux de la part de M. Mélenchon pour savoir à quoi ça ressemblerait, sa 6e République. Je crains, hélas, qu'elle soit pire.
Cependant, je pense qu'il faut que le pouvoir en place ne se contente pas de la légitimité institutionnelle. Il faut avoir une légitimité politique. Et jusqu'à là, il y avait peut-être des gens un petit peu plus au fait de ces choses-là avant au pouvoir qui se souciaient toujours de la légitimité politique et pas seulement de la légitimité institutionnelle qu'on arrivait à obtenir. Et là, c'est ce qui fait le défaut, à mon avis, de ce gouvernement qui dit, bah, finalement, tant qu'on peut, on fait. Non, mais la légitimité politique, c'est extrêmement
important. Ça se règle aux élections, cher ami.
Oui.
Ça se règle aux élections.
Non, ça ne se règle pas qu'aux élections.
Ben non, mais ça se règle d'abord aux élections.
Vous savez, un pays en grève, il peut avoir élu un gouvernement et ne pas être d'accord avec ce qu'il fait ensuite.
Certes.
Donc, c'est pour ça que je dis que la légitimité politique est extrêmement importante et que Macron donne le sentiment de ne plus la rechercher.
En légitimité politique, c'est aussi dans sa prise de parole. C'est-à-dire que quand vous êtes élu de cette manière-là, la première chose que vous faites, c'est de contribuer à artisser des formes de liens. C'est surtout pas d'arriver en disant « j'ai été élu pour faire mes réformes ». Parce que pour le coup, là, ça passe mal, parce que même les gens qui le jugent légitime et qui ont voté pour lui sont hérissés, parce qu'à ce moment-là, ils s'emparent d'un appui qu'il n'a pas. Donc il y a la maladresse de Macron qui fait qu'alors que finalement il est un choix par défaut, mais un choix quand même, il en arrive à crisper des gens qui ont pourtant voté pour lui. Donc il y a une grande maladresse de position.
Le choix par défaut, c'est
pas raisonnable.
On peut pas dire.
D'abord, moi je ne conteste
pas. C'est pas démocratique
de
dire.
Écoutez, moi je conteste pas la légitimité de Macron.
Ah si, madame.
Mais non, mais en tant que président de la République, je ne conteste pas.
Élu par défaut, c'est...
Je dis...
Élu pour faire barrage à Marine Le Pen.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu pour faire barrage à quelqu'un, parce que vous faites moins peur que l'autre candidat, les personnes n'adhèrent pas forcément à votre proposition. À ce moment-là, le premier travail, c'est justement de construire cette adhésion. Si vous vous en revendiquez alors qu'elle n'existe pas, vous crispez les personnes.
Ça s'appelle des maladresses que je partage avec vous.
Ça ne veut pas dire que je conteste la légitimité de Macron. Ça veut dire que j'explique pourquoi aujourd'hui sa parole ne passe pas et le lien de confiance est.
Et après, on regardera ces images.
Vous faites une erreur de jugement politique et ça m'étonne. Parce que lorsque vous dites que ça se passe aux élections, vous savez très bien que ça ne se passe pas qu'aux élections. Sinon, on n'a plus besoin de Parlement, on a besoin d'un Conseil des ministres et c'est fini. Oui, puisque vous dites que ça se passe qu'aux élections. Ça ça se passe aux élections, la légitimité. Oui. La légitimité, elle, c'est un combat à remettre sur le tapis tous les jours, et c'est normal, un politique redevable aux yeux du peuple. Et je ne suis pas en train de dire, moi, là, qu'il n'a pas la légitimité. Attention, je ne fais pas partie de ces gens-là qui disent, si on n'est pas le mandat, je ne suis pas pour le mandat impératif.
C'est un chemin dangereux que vous empruntez. C'est un chemin dangereux.
Mais pas
non,
du tout.
Non, ce n'est pas du tout ce qu'il dit.
Mais je, vous ne comprenez pas ce que je dis.
Il y a encore des outils. Non, mais on peut aussi évoquer les motions de censure, on y reviendra. Mais il y a encore des outils à la disposition des oppositions.
Je suis en train de dire que si un président de la République n'a plus le souci de se montrer légitime politiquement, il a tort. C'est ça que je dis.
Ah, il a tort, oui, sûrement.
Ah ben, c'est exactement
c'est
ça
ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il va le payer dans les sondages, il va le payer à la réélection qu'il ne connaîtra pas, puisque de toute façon, lui, il n'est pas soumis à réélection. Il est doublement coupable. C'est que n'ayant pas le coup près de l'élection à 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans, il n'a pas fait néanmoins le nécessaire pour faire passer cette réforme.
L'idée, c'est que incompréhensible de sa part. Une fois que vous êtes élu, cette légalité-là, qui justifie d'ailleurs tout votre pouvoir d'action, celle-là, elle ne peut pas être mise en cause. En revanche, la légitimité, c'est quelque chose de fragile et qui peut être contesté, y compris quand votre légalité est incontestée.
Les images. Alors on va arrêter d'analyser.
Personne ne conteste votre légitimité.
S'il vous plaît, on arrête un peu.
Il y en a un qui a fait ça, il s'appelait Jacques Chirac.
On arrête un peu. Vous êtes très verbeux aujourd'hui. C'est vous qui êtes les plus remontés. On va arrêter juste le commentaire ou l'analyse politique quelques secondes, parce que j'aimerais quand même qu'on revienne à ces images, cette manifestation spontanée dont vous voyez, quand on varie les plans, selon les plans que l'on montre, qu'elle est en train de grossir quand même. Il y a de plus en plus de monde qui s'est donné rendez-vous visiblement place de la Concorde. Manifestation spontanée, mais à l'appel des syndicats qui étaient déjà présents en nombre. Et puis surtout ce cortège de représentants de la nation, de LFI en particulier, qui se sont joints à eux. Et on voit que voilà, cette manifestation spontanée pour contester le 49-3, elle est déjà en train de se mettre en place. Il faudra voir de quelle manière elle est suivie des faits réels de mobilisation. Peut-être une mobilisation samedi. On parle déjà d'une intersyndicale qui doit se réunir ce soir. Jean-Claude, tant que tout se déroule dans le calme, la contestation, la grève, les blocages, ça reste dans le cadre républicain quand même, de toute façon.
Oui, espérons-le.
Même si les syndicats continuent d'être à la menace.
Ce gâchis politique est d'autant plus incompréhensible à mes yeux que les manifestations, les mobilisations, le nombre de grévistes étaient fortement déclinants à peu près partout. Et là, le résultat, me semble-t-il, je peux me tromper, mais le résultat, c'est que vous allez donner un coup de fouet assez spectaculaire et probablement très fort aux contestations de toutes sortes. Ça durera ce que ça durera. On va voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale.
Il y a déjà un conflit.
Ce n'est pas une bonne journée pour la démocratie.
Il y a déjà un conflit qui dure depuis un certain temps. C'est la grève des éboueurs. Ça fait plus de 10 jours maintenant. Éboueurs, c'est pas fini. Ils ont reconduit jusqu'à lundi, y compris un incinérateur à Évry qui lui aussi est en grève. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, même si, entre-temps, le préfet de police a ordonné les réquisitions sous ordre de Gérald Darmanin, puisque Anne Hidalgo a dit « ce sera sans moi ». Ça va se jouer par secteur, c'est-à-dire que les blocages ne peuvent s'effectuer que par secteur stratégique. C'est ça qui fera que le pays sera d'une certaine manière à l'arrêt.
Bah, en fait, le problème, c'est qu'il faut quand même avoir sacrément confiance en l'avenir pour arrêter de travailler pendant très longtemps sans être payé.
Ou avoir des fonds, des caisses, avoir des caisses dédiées.
Oui, mais enfin, il y a une limite aussi aux caisses dédiées si vous voulez vraiment avoir un mouvement d'ampleur qui bloque le pays. Donc à un moment donné, il y a une logique financière aussi qui se met en place et du coup, des grèves tournantes ou faire en sorte de bloquer des endroits stratégiques, ça vous permet de gérer la durée et de bloquer réellement le pays. Donc d'un point de vue stratégique, effectivement, c'est ce qu'il me semble le plus facile à faire. Là, aujourd'hui, la question, finalement, c'est si le terrain reste aux mains des syndicats. Les syndicats savent gérer une manifestation. Ils ont des services d'ordre de très grande qualité. On risque peu de débordements. Le problème, c'est si à l'appel de LFI, il y a toute une partie de leur clientèle qui arrive à Paris, où là, en fait, la capacité à gérer cette population-là est beaucoup plus compliquée. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on aura de débordement. Il va falloir voir ce qui se passe dans les jours d'après. Mais effectivement, le 49-3 a sonné comme une provocation.
Oui, bien sûr.
Et dans un pays où l'exaspération et la résignation vont de pair, je crains qu'on ne soit pas loin de la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Peut-être pas maintenant, mais en tout cas, ça restera dans les mémoires. Ça fait partie de la logique d'accumulation qui commence à vraiment peser sur le pays.
Frédéric, si on évacue la faisabilité des motions de censure, si on se dit, bon voilà, le compte n'y sera pas, elles ne passeront pas en l'état, le fait qu'il y ait des mobilisations comme celles qu'on a vues, en tout cas pendant le mois et demi écoulé, si ça reste comme ça, ça n'a pas été de nature à faire plier le gouvernement, si ça reste comme ça, ça peut durer longtemps, il ne pliera pas plus, en fait.
Non, mais c'est pour ça que je crains des
durcissements
de nature violente.
La radicalisation,
je crois pas trop que ce soit la clientèle de la LFI, pour le coup. Ce sont des groupes déjà constitués comme les Black Blocs, etc., que jusqu'à présent, la doctrine de Nunez a beaucoup mieux réussi, peut-être parce qu'il y avait plus de volonté politique à encadrer, que ça a été la veille. Parce que si Macron dit jusqu'à ce matin, disait il faut aller à un vote. C'est pas pour rien qu'il le disait, Emmanuel Macron, il n'est pas idiot. Il est peut-être pas à côté de la plaque à certains égards, mais il n'est pas idiot. C'est parce qu'il savait très bien que le 49-3, c'était difficile à assumer. Mais alors, jusqu'à quel point c'est difficile à assumer pour le faire malgré tout? Moi, c'est ça la question. Finalement, j'ai vu que Ruffin était d'accord avec Alain Minc pour dire que tout ça, Alain Minc, que tout ça était pour rassurer les marchés financiers. Donc, acte. Mais il faudra leur expliquer aux Français pourquoi ça les rassure que d'un coup, on passe 64. Oui. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens se sont sentis dépossédés de quelque chose qui va engager leur vie. C'est pas pareil de prendre un 49-3 sur certaines mesures, et qu'en plus on en a fait un sous-produit de la loi puisqu'on a intégré un plan de financement de la sécu rectificatif, et du début à la fin il y a une forme de mépris de la vie des gens, et les gens le perçoivent comme ça. Ils ont tort ou ils ont raison, mais en tout cas ils le ressentent comme ça. C'est ça, leur c'est... vie qui est
à c'est clairement de la faute du président d'avoir laissé, si vous avez raison, si ce sentiment-là s'est répandu largement dans la population, c'est de la faute de quelqu'un. On ne leur a pas assez parlé. Même si c'était pour leur dire parfois des choses désagréables. Ce que je crains simplement, c'est que le mouvement social était quand même à la baisse, incontestablement, on ne peut pas le nier, et que ce 49-3 redonne de la vigueur, redonne de l'efficacité et pousse à la radicalisation. C'était déjà très radicalisé dans ce pays.
En tout cas,
qu'on en rajoute encore me paraît pas bon signe.
Cette manifestation spontanée s'est déclenchée juste après le 49-3, et on a quelques réactions à vous faire entendre sous les fenêtres du Palais Bourbon. C'était il y a quelques minutes.
C'est honteux, c'est inadmissible. Ça veut dire que, un, déjà, on le savait déjà, qu'ils sont contre la majorité du pays, des travailleurs, mais pas seulement de l'ensemble des Français. Et maintenant, ils sont même contre leur propre Parlement, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Ce gouvernement est aux abois.
C'est pas possible, on peut pas faire passer comme ça, c'est pas démocratique. On va continuer, on sera dans la lutte jusqu'au bout.
Ça, ce qui se passe à l'heure actuelle, au sein de ce gouvernement, c'est un déni de démocratie. On nous crache à la figure, nous, les citoyens de ce pays. Notre détermination reste la même. Ça ne changera rien. Après, on verra ce que donne la motion de censure. Mais quoi qu'il arrive, que le gouvernement s'est disputé ou pas, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, nous, c'est la rue jusqu'au retrait de cette réforme.
Voilà, ça, c'est un échantillon. Ce n'est pas forcément représentatif de tout ce qui va se jouer dans les prochains jours. Jeanne Cancard, vous êtes non loin de ces manifestants qu'on a entendus. Place de la Concorde, on le dit. Ce mouvement spontané de contestation au 49-3, il est en train de grossir. On voit quand même nettement plus de monde qu'il y a encore un quart d'heure, 20 minutes.
Mais regardez, Nelly, sur les images, on voit ici, non loin de la place de la Concorde, eh bien, la place qui se remplit. Les manifestants que vous venez d'entendre à l'instant sur notre antenne, eh bien, ce sont les manifestants que nous avons interrogés tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait une manifestation un petit peu plus tôt dans la journée qui se trouvait devant l'Assemblée nationale aux alentours de midi. Quelques centaines de manifestants s'étaient donné rendez-vous au même moment que les leaders syndicaux eux aussi sont arrivés devant le Palais Bourbon. Et là, eh bien, vous voyez qu'une partie de ces manifestants se sont donc déplacés pour se donner rendez-vous ici avec d'autres manifestants vers la place de la Concorde. Et on a aussi vu tout à l'heure, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, qui étaient présents ici dans cette manifestation. Manifestation qui est aussi encadrée évidemment par un important dispositif de force de l'ordre, puisque cette manifestation, eh bien, elle surprend pas mal. Et il y en a même qui nous disent, ben, là, je passais un petit peu dans le coin et j'ai entendu qu'il se passait ça. Je sais que c'est pour protester encore une fois contre le 49. Donc finalement, je décide de rester, je décide de manifester. On sent une forme de, on va dire, voyez, de cohésion des luttes qui convergent ici sur cette place de la Concorde. Et puis c'est une image qui est aussi un petit peu symbolique, puisque au fond de cette place de la Concorde, eh bien, on peut voir le Palais Bourbon. Et puis ces manifestants qu'on voit ici, il y a aussi pas mal de syndicats et puis aussi pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont présents ici pour montrer évidemment leur mécontentement face à cette réforme des retraites, mais surtout face à la façon dont elle a été adopté avec ce 49-3. Mais ce 49-3, eh bien, ce que nous disent les manifestants qui sont présents ici, c'est que finalement, c'est peut-être finalement une petite victoire pour la rue. Ça va finalement montrer aussi aux yeux du monde, je cite, hein, c'est ce qu'ils nous disent, aux yeux du monde, que Emmanuel Macron n'avait aucune raison d'adopter cette réforme des retraites. Et là, ce que vous voyez en ce moment à l'image, sur les images de Fabrice Elsner, eh bien, c'est les manifestants qui font face aux forces de l'ordre dans le calme, hein, de façon assez pacifique, mais pour toujours montrer leur mécontentement face à cette réforme des retraites.
Le symbole
ras-le-bol est assez fort, en effet. On voit ici des lycéens, des étudiants, exactement ce que vous décriviez. Juste, voilà, pour vous garder quelques instants, ils sont combien? Il y a quelques milliers de personnes, vous diriez, d'ores et déjà, sur cette place de la Concorde?
C'est toujours difficile à dire, mais oui, on peut dire quelques milliers de personnes qui sont présentes ici. Il faut rappeler hier les chiffres de la mobilisation. 450 000 personnes à Paris selon la CGT, 37 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors évidemment, là, c'est pas quelque chose d'organisé. Il y a peu de chances que ça atteigne des chiffres colosses, des chiffres importants comme ça. Mais les manifestants qui sont présents ici, je vous le rappelle et vous le voyez sur les images particulièrement, les jeunes nous disent bien qu'ils envoient un petit peu partout des messages pour appeler à se réunir ici jusqu'au début de la soirée.
Et puis il y avait quelques blocages tout à l'heure de voitures. Là, la voie a été dégagée le long des quais.
Oui, Nelly, la circulation a repris puisque eh bien, les forces d'ordre sont intervenues pour enlever, pour dégager les barricades, les barrières qui avaient été installées par quelques manifestants pour bloquer la circulation sur les quais. Donc là, on peut le dire que pour le moment, eh bien, la manifestation se déroule dans le calme.
À quelques jets de Pierre Delà, merci à vous, Jeanne. Merci à Fabrice Elsner, évidemment, à qui on doit ces images. À quelques jets de Pierre Delà, retournons au Palais Bourbon avec Augustin Donadieu. C'est Éric Coquerel qui répond à vos questions en direct. Alors, vous êtes non loin de là. Place de la Concorde.
Oui, effectivement, dans cette manifestation inopinée, avec énormément de jeunes qui viennent de rejoindre le cortège. Et je suis avec Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances. Dites-moi, monsieur le député, qu'est-ce que ça vous fait de voir une telle mobilisation juste après un 49-3?
Eh bien, ce que je remarque, je faisais la comparaison avec la même mobilisation en 2019. En 2019, si vous vous souvenez, il y avait eu un 49-3 sur le projet de retraite. Bon, on ne savait pas qu'il allait être retiré après du fait du Covid. Et il y avait une colère, mais en même temps, quelque part, une révolte, mais qui était plus sur un sentiment d'échec. Là, vous voyez que ce n'est pas le cas. Et donc, je crois que les gens ont très bien compris que c'était une défaite terrible pour le gouvernement, ce 49-3, et que c'était un encouragement pour la mobilisation sociale jusqu'au retrait de la réforme qui me semble de plus en plus atteignable.
Cette mobilisation-là, elle prend de l'ampleur, ça n'est que le début?
En tout cas, c'était un moment de bascule. Si le texte avait été voté, je pense que ça aurait été compliqué pour la suite. Là, au contraire, c'est une manière de renforcer la mobilisation, parce que maintenant, je ne vois pas comment Madame Borne, qui n'a plus de légitimité ni à l'Assemblée ni dans le peuple, va pouvoir tenir très longtemps elle-même déjà, mais avec son projet de loi en plus.
Vous allez justement déposer une motion de censure, c'est ça ?
Censure transpartisane de toutes les oppositions démocratiques. Il va y avoir aussi un recours au Conseil constitutionnel. On va faire aussi on va déposer un RIP, un référendum d'initiative populaire, qui va bloquer la réforme pendant 9 mois. Donc moi, je crois que cette réforme ne verra jamais le jour.
Est-ce que vous pensez sincèrement que ce mouvement de mobilisation rejoint par les jeunes massivement va faire bouger Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne? Est-ce que c'est suffisant?
Il l'a déjà fait bouger parce qu'il n'a pas réussi à faire passer sa loi. Il faut bien considérer qu'aujourd'hui, c'est une défaite parce que c'est l'équivalent d'un vote contre. Et c'est ce mouvement social qui l'a obtenu. Donc ça l'encourage maintenant à aller plus loin jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'on va gagner.
Merci Éric Coquerel, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Augustin Donadieu sur des images d'Olivier Gangloff. D'une certaine manière, il nous rend service parce que maintenant on va pouvoir justifier notre combat jusqu'au bout. C'est un peu le message d'Éric Coquerel à l'instant, Céline Pina.
Il a raison, en opportunité, il se saisit de la perche que lui tend Macron. La question, c'est comment Macron sort de cette séquence, parce que ce 49-3 posé va peser lourd. Je ne vois pas comment il s'en sort, à moins de balancer une tête au peuple en colère, qui ne peut être que celle de sa première ministre. Mais le problème, c'est que balancer une tête ne calme le jeu que si la tête est réclamée, que si c'est la bonne tête qu'on jette. Or là,
c'est lui la cible.
Oui, c'est lui la cible. Il veut être au centre de tout, mais de fait, quand il y a un problème, il est aussi au centre de tout. Donc il se peut que dissoudre le gouvernement ne lui offre pas une respiration politique, parce que c'est pas tout de jeter une tête. Il faut dire par qui on la remplace, et il faut que la personne qui remplace la tête que l'on vient de jeter incarne quelque chose aux yeux du pays. Or, il a dans sa majorité est très faible. Il a peu de figures qui rayonnent. Il les a tous fait rois, mais eux n'ont pas fabriqué quelque part pas des suzerains et n'ont pas de petits royaumes à lui amener. Je pense qu'il est quand même dans une situation extrêmement difficile. Là, le roi est plutôt nu. Et le problème, c'est que ceux autour commencent à se rendre compte qu'ils n'ont plus que leurs caleçons non plus.
Ça, c'est quelle image. Frédéric Durand, on a coutume de dire effectivement que les premiers ministres sont les fusibles de la République et qu'après tout s'arrange, en tout cas rentre dans l'ordre. Là, vous êtes d'accord avec Céline pour dire que ce sera un fusible pas suffisant, en tout cas pas suffisamment fort. Non,
mais trois par an surtout, c'est-à-dire quand le fusible se définit presque lui-même comme fusible, on n'y croit plus. Et que par voie de conséquence, s'il était là juste pour être jeté, alors le petit jeu ne marche plus, c'est l'évidence. Et puis, comme moi je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai refus d'une partie des Français à travailler plus longtemps. Ils estiment qu'on aurait dû explorer d'autres voies. Moi, je pense que les Français sont responsables. Je crois vraiment pas que les Français seraient capricieux, qui ne voudraient pas...
Feignants.
Je ne crois pas ça. Ouais. Je crois qu'ils sont prêts à accepter un certain nombre de concessions dès lors qu'on leur dit qu'au bout, il y a quelque chose. Mais, et c'est vraiment très important, si on leur dit qu'il n'y a que du sang et des larmes, jamais de victoire, sur rien, parce que on ne voit pas comment la France est en train de se redresser, alors on peut regarder au détail près, oui, il y a la volonté de relancer le nucléaire, oui, mais il n'y a rien qui se passe dans la vie des Français. Dans leur vie concrète, qu'est-ce qu'il y a les Français? Ben, ils subissent l'inflation de plein fouet, en même temps on leur dit vous allez travailler plus longtemps, ils sortent de 2 ans de Covid, il y a la guerre en Europe, imaginez le cocktail extraordinaire où là on devrait redonner un peu de courage, laissons la réforme des retraites pour le moment de côté, regardons, discutons, mais il y a des signes positifs à donner aux Français aujourd'hui, ils n'y sont pas. Les gens ont peur, vous vous rendez compte qu'on vit la génération, la première génération qui commence à voir leurs enfants vivre moins bien qu'eux. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte de la rupture civilisationnelle que ça représente? Et ça, je pense que le pouvoir n'a pas la hauteur de vue pour comprendre réellement ce qui se passe dans cette France. Et notamment la France que décrit Christophe Guillouis, par exemple. Cette France abandonnée. Aujourd'hui, on fait tout pour les métropoles. 50 milliards par an pour la métropole du Grand Paris et 10 milliards pour 200 villes petites et moyennes en France. Vous vous rendez compte de la situation de tous ces gens-là abandonnés?
On retourne dans cette manifestation spontanée, toujours avec Augustin Donadieu, qui cette fois a Olivier Faure, le président du groupe PS, à son micro.
Effectivement, Olivier Faure qui a rejoint cette manifestation qui prend de l'ampleur ici, place de la Concorde. Olivier Faure, merci d'être avec nous sur CNews. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça?
Tout simplement, je pense que ça exprime l'exaspération des Françaises et des Français qui ne comprennent pas qu'après avoir manifesté pendant 2 mois, d'avoir mené un mouvement pacifique, eh bien un président passe outre à la fois la démocratie sociale et la démocratie parlementaire. Et donc ils sont là pour venir le dire. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, y compris qui sont présents, qui affluent. Ils savent que le départ plus tardif à la retraite, ça veut dire moins de boulot pour eux. Et puis ils ont des parents, des grands-parents, et ils savent aussi ce qu'il en coûte pour ceux qui ont des métiers pénibles et qui ne veulent pas 2 années de plus.
Ça va prendre de l'ampleur, là, cette manifestation, selon vous?
Mais je le crois. Je pense que tout simplement, le président de la République a pris une lourde responsabilité parce que, on le sait bien, quand on est dans le déni démocratique comme il l'est actuellement, le risque, c'est le risque de dérapage de plus en plus violent et des gens qui, exaspérés, en colère, finissent par agir différemment. Ce que je vois, c'est des gens qui disent « Mais à quoi ça sert de respecter les institutions puisque les institutions ne nous respectent pas ?» Et donc, le précédent des Gilets jaunes qui avaient été d'abord pacifiques, puis ensuite débordés par les Black Blocs, avaient obtenu des milliards. Les gens se disent, finalement, ils ne comprennent rien. Et c'est ça, moi, ce que je regrette. C'est que un président normalement constitué, qui aurait donc en tête l'intérêt général, que fait-il face à ces absences de majorité? Il dit, je retire mon projet. Et puis, je remets sur la table donc une discussion avec les partenaires sociaux, avec les partis politiques, et je cherche à réunir une majorité claire sur un projet qui puisse faire consensus. Il fait tout l'inverse. Il fracture ce pays, il donne le sentiment que finalement la volonté d'un seul peut s'imposer à tous, et voilà, on en arrive aujourd'hui à une colère qui va monter, alors qu'elle n'est pas nécessaire sur un sujet comme celui-là.
Vous avez été reçu à l'Élysée avec Emmanuel Macron? Comment ça s'est passé?
Moi, je n'ai pas été reçu à l'Élysée depuis bien longtemps. Pas depuis, en tout cas, le mois de juin. Et non, on a un président qui s'est muré, au contraire, qui a même refusé de recevoir les syndicalistes, alors même que c'était quand même la moindre des choses. Vous avez des gens qui conduisent un mouvement pacifique depuis 2 mois et il ne veut même pas les recevoir, les écouter, les entendre et comprendre aussi ce qu'ils ont à lui dire, à rapporter de ce qui se raconte dans les entreprises, dans les usines, dans les collectivités, dans les services publics, où partout les gens avancent les mêmes arguments. Ils savent qu'il existe d'autres façons de procéder, qu'on n'est pas obligé de passer par 2 années de plus pour solder un éventuel déficit qui n'est même pas confirmé à cette heure. Et donc, voilà, c'est le problème d'un président qui a décidé de fermer les écoutilles, qui n'écoute que lui-même et qui ne comprend pas son propre peuple.
On note l'absence lors de cette mobilisation ici à la Concorde d'une personnalité politique de votre parti, Anne Hidalgo. Pourquoi n'est-elle pas à vos côtés?
Mais écoutez, je ne suis pas sûr qu'Anne Hidalgo n'est pas parlementaire. Donc là, on arrive directement de l'Assemblée où finalement nous pensions avoir un débat pendant l'après-midi. Et nous sommes démobilisés puisqu'il y a eu le 49-3 et que désormais, bah, nous n'avons plus qu'une seule chose à faire en attendant la motion de censure, c'est de venir à la rencontre de ceux qui manifestent, nous expliquer avec eux, expliquer ce qui se passe, parce que beaucoup sont aussi en attente d'explications. Ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant? Est-ce que vraiment c'est fini? Alors on leur dit non, c'est pas fini. Nous avons d'abord une motion de censure qui se discutera la semaine prochaine, et puis il y aura ensuite un recours devant le Conseil constitutionnel, parce que l'article 47-1 n'était pas fait pour porter une réforme des retraites. Et puis enfin, nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait un référendum d'initiative partagée qui permette de porter devant les Français le sujet et de faire en sorte qu'à la fin, ce soit les Français qui votent.
On précise quand même qu'Anne Hidalgo effectivement soutient la grève des éboueurs ici à Paris. Vous parliez de la motion de censure. Est-ce que vous, votre groupe, va voter celle du Rassemblement National?
Bah, vous connaissez notre réponse. Nous ne votons jamais aucun amendement ni texte qui provienne du RN. Donc nous allons avoir une motion vraisemblablement transpartisane. Et c'est celle-là que nous voterons et qui sera celle vraisemblablement portée par le groupe Liotte, qui est un groupe qui est peut-être plus adapté pour aller capter les voix des Républicains.
Merci à vous, merci monsieur le député d'avoir été avec nous sur CNews.
Beaucoup et merci à Jean-Laurent Costantini qui vous accompagne, cher Augustin Donadieu. Il a fermé les écoutilles. En tout cas, il est de toutes les conversations. Emmanuel Macron le disait, lorsque les responsables politiques sont interrogés sur le terrain, c'est devenu vraiment lui la cible. C'est lui pour tout le monde, le fusible, désormais.
Il a les oreilles qui sifflent s'il a fermé les écoutilles, en tout cas.
Non, mais il a une situation politique qui est nouvelle. Bon, l'antimacronisme, effectivement, va prospérer. Après ce 49-3... Je maintiens inopportun, ou en tout cas compliqué qu'on en arrive là. Donc on va vers une situation qui sera ce qu'elle sera. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais on voit bien que même le Parti Socialiste retrouve un petit peu de discours. Bon, en fait, le patron, c'est Mélenchon, c'est pas lui, mais c'est pas grave. Il y a une situation nouvelle qui se crée, je sais pas jusqu'où ça ira, mais encore une fois, on est au soir d'une journée qui est très difficile pour le président de la République et son gouvernement. Je ne sais pas quelle décision il prendra. Est-ce qu'il faudra qu'il, effectivement, change l'équipe au pouvoir? Mais c'est, encore une fois, c'est possible, il peut faire ce qu'il veut, il est le président. C'est ça qu'il faudrait qu'il comprenne. C'est que sous la Ve République, ça ne sert à rien de dire c'est le gouvernement qui s'en occupe de cette réforme des retraites. Et puis qu'il se débrouille avec ça. Moi, je manifeste ma présence en Afrique, ailleurs, à droite ou à gauche. C'est pas comme ça que se fonctionne la Ve République. Tout dépend du président. C'est à tort ou à raison. On peut souhaiter en changer. Mais au jour d'aujourd'hui, on le voit bien ce soir, le responsable de cet échec, c'est un peu Madame Borne, mais c'est beaucoup le président de la République.
Il y a aussi cette notion, pardon, de reprendre un peu la main de temps en temps, il y a aussi cette notion quand même que sur le plan financier, il n'y avait pas péril en la demeure. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs à l'instant Olivier Faure. Ceux qui ont fait les comptes ont dit, ben voilà, le Conseil d'orientation des retraites a toujours dit, on n'est pas épris à la gorge, étranglé, on a encore quelques années devant nous. D'où l'incompréhension de s'arc-bouter ainsi.
Il y a un petit peu de temps, mais il n'empêche que structurellement, on en arrive quasiment à avoir un retraité pour un actif, ce qui n'est pas soutenable financièrement à terme. Donc à terme, on sait quand même, le souci est réel. Mais justement, pour résoudre ce problème-là, ce n'est pas seulement des réformes comptables qu'il faut, elles peuvent permettre de passer un petit gap, mais il faut des réformes structurelles. Et c'est toute la question de l'organisation du marché du travail, d'un pays qui fait rentrer très tard ses jeunes sur le marché du travail, qui les chasse très tôt, de la désindustrialisation de plus en plus importante, des temps de vie qui ne sont pas pris en compte. Il y a des métiers physiques que vous pouvez faire entre 20 et 40 ans, mais ensuite, si vous n'avez pas de perspective de changement parce que vous êtes dans une société extrêmement sclérosée sur ces questions, eh bien, vous vous retrouvez en fait dans des situations où effectivement vous vous abîmez. Toutes ces questions n'ont pas été posées, n'ont fait l'objet d'aucun débat, d'aucun travail. Aucun parti n'a travaillé sur ces questions-là. Donc c'est un mélange d'incompétence, de manque de travail qui jaillit au visage. Et quand on ne travaille pas, la réforme comptable, c'est le viatique qui permet de sauver 3-4 ans. Ça, les Français l'ont compris. Aujourd'hui, je suis d'accord avec monsieur, ils veulent bien faire des efforts, mais ils veulent des perspectives. Or là, on leur propose des efforts qui n'ouvrent aucune perspective. Et en plus, quelque part, pourquoi aussi il y a toute cette cristallisation sur Macron ? C'est qu'ils n'ont pas, j'allais dire, de plan B. C'est-à-dire que Macron se présente comme étant le cercle de la raison. Ils ont une gauche qui leur a fait très peur sur le plan sociétal. Et là, Macron est quasiment en train de reconstituer la gauche parce que sur la question des retraites, pour le coup, il y a un vrai dialogue qui peut se nouer entre LFI, le PS, le PC, ELV, là-dessus, ils peuvent trouver une vraie plateforme d'accord qu'ils ne peuvent pas trouver sur le sociétal. En remettant le social au cœur du débat, il rend service à une gauche qui était en train de se décrédibiliser.
Céline, il faut aussi raconter, il faut cesser de raconter des histoires au pays, notamment à ceux qui travaillent. Parce que quand on dit que les chiffres du corps entretiennent un halo sur eux, il n'y avait pas d'urgence. C'est oublier simplement que l'État, c'est-à-dire vous et moi, devons mettre 30 milliards par an pour payer la recette des fonctionnaires, la retraite des fonctionnaires.
Ça, c'est
30
choix,
milliards
c'est
par an.
Choix que les
peut-être,
Français,
mais ça compte.
Moi,
30 milliards, c'est beaucoup
par
d'argent.
Par exemple, j'estime que nous payons la retraite de nos fonctionnaires qui sont censés travailler pour le bien commun.
Oui,
ne me choque
censé,
pas.
Oui.
C'est un choix politique que je peux tout à fait.
Oui, mais il ne faut pas oublier que ça coûte 30 milliards par an.
Je vais vous poser une question, Frédéric. Pour toutes les raisons, merci Jean-Claude. Pour toutes les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, la perte de confiance, les crises Covid, la peur de l'avenir, l'incertain. Le problème avec la réforme des retraites, quand on s'attelle à des réformes dites paramétriques comme celle-ci, c'est que ça reviendra sur la table. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y a toujours le problème du renouvellement des générations. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on n'a pas confiance en l'avenir pour encourager à la natalité et alors qu'il n'y a pas de politique de natalité réelle dans notre pays aujourd'hui ?
Il y a une partie de la réponse qui peut être dans la natalité, sauf que comme vous disiez, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque si on pense que nos enfants vont vivre mal, on ne fait plus d'enfants. Donc c'est plus large que ça. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas les gens sérieux d'un côté qui diraient « mais enfin, c'est logique, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. » Non, il faut explorer toutes les pistes. Parmi les pistes, il y a aussi le fait, c'est bizarre, parce que les bons comptables ne disent pas ben, « un salarié produisait 25 000 euros de richesse en 1980, il en produit 80 000 euros de richesse en aujourd'hui. » Ah bon ? Et alors, tous ces gains de productivité, les super comptables, ils l'évacuent dans le compte.
Ça compte plus,
bizarre. Ouais. Déjà, ils auraient dû le prendre en compte et se dire ben, « alors, qu'est-ce qu'on fait cotiser ?» Parce que qu'est-ce qui nous pose problème ? C'est de faire rentrer de la cotisation. Alors, pourquoi les femmes sont moins payées à poste équivalent ? Déjà, si on les payait au même niveau, on se dirait « on fait rentrer de la cotisation supplémentaire. » Non, mais c'est si on avait eu le respect simplement, parce que vous disiez les partis politiques, les syndicats ont travaillé ces questions. Ils les ont travaillées de manière très précise, très approfondie. Ils n'ont pas été écoutés du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une logique capitalistique qui est derrière. Ben arrêtons de nous faire du cinéma. Il y a certains qui veulent qu'on passe à la retraite par capitalisation. Ça les gonfle. Le système qui est comme ça, 340 milliards d'euros sur lesquels on ne peut pas mettre la main parce qu'ils vont directement de la cotisation vers les retraités, eh bien ça les emmerde parce qu'au passage, ils pourraient quand même se faire quelques beaux bénéfices. Donc, il y a aussi cela.
Ce qui se fait déjà ailleurs en Europe. Pas.
Même la préfond des fonctionnaires,
de,
pareil.
Beaucoup de pays européens.
Oui, tout à fait.
Mais les seuls qui puissent bénéficier d'une recette adjointe par capitalisation, c'est qui ?
Non, mais vous allez dire les fonctionnaires.
Non, mais là, vous passez.
Non, je ne passe pas sur ça. Mais je dis que certains veulent aujourd'hui la retraite sur le modèle des fonds de pension américains parce que ça fait de la liquidité et ça fait de la possibilité de la.
Mais oui. Il y a une recette qui tient la route, c'est Agicarco.
C'est la spéculation boursière.
Exactement. Et donc, il y a aussi ceux-là, on fait comme s'ils n'existaient pas. Mais ils existent bel et bien. Et ils font du lobbying auprès des gouvernements. Et auprès de l'Europe, ils font du lobbying pour que tout ça s'arrête, le système de répartition. Alors que nous dit le gouvernement ? Il dit, mais justement, si vous voulez le préserver, il faut travailler plus longtemps. Et là, il apparaît comme, sur son grand cheval blanc, Macron apparaît comme celui qui veut protéger le système par répartition. Or, au plus on fait travailler les gens longtemps, au plus les gens vont s'arrêter avant. Et ils auront donc une retraite à minima. Et donc, ils vont devoir capitaliser une partie de leur retraite. Et voilà. Donc, il faut aller au bout du système.
C'est pas du tout ce que prévoyait la loi. Je vous le dis en passant,
mais
enfin
bon.
Les gens, ils ont du bon sens et ils se débrouillent pour préparer une retraite plus efficace et plus heureuse.
Évidemment, je pourrais le faire jusqu'à 70 ans. Il y a des métiers qu'on ne le fait pas jusqu'à 70 ans.
Bien sûr.
On retourne place de la Concorde où ils sont déjà, vous le voyez, sans doute quelques milliers réunis avec ce bus qui ne peut même plus avancer. Place de la Concorde, Augustin Donadieu, avec à vos côtés
la députée Sandrine Rousseau. C'est à vous.
Un culte pour Elisabeth Lévy, c'est assez incroyable.
Ah bon ?
Oui.
D'accord.
Ah,
il m'entend pas.
Oui, effectivement, on est ici à la Concorde, toujours dans cette mobilisation très, très, très impressionnante, alors un petit peu importunée par quelques manifestants, très revendicatifs, mais on est avec Madame Rousseau. Merci d'être avec nous. Vous êtes la députée NUPES de Paris. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette forte mobilisation un petit peu inopinée ?
Là, c'est une mobilisation de gauche et de l'écologique et hyper spontanée, qui est très forte. Et je pense que le 49-3, c'était l'erreur. Voilà.
Et qu'est-ce qui va se passer là pour la suite ?
On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder, la recette.
Et à part le chant, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale ?
Lundi, il y a une motion de censure et je pense que c'est la fin du gouvernement d'Elisabeth Borne.
Merci, Madame Rousseau. Merci d'avoir été avec nous.
C'était bref, mais intense dans sa voix. Hein. Sandrine Rousseau qui y croit, hein, motion de censure.
On est passé de Jaurès à Sandrine Rousseau,
sauf...
à gauche.
Sauf qu'il va falloir voir Jean-Claude Dacier par qui elle est déposée, qui la votera, ben voilà, suivant.
Ben, je ne sais pas, il va falloir faire les comptes. Parce que la nouveauté, c'est que M. de Courson ambitionne, semble-t-il, on verra s'il confirme, de présenter une motion de censure dite transpartisane.
Qui est la seule
se ralliera
qui peut recueillir
à M. de Courson, qui est un personnage que les Français connaissent pas, qui est très étrange, qui aujourd'hui, bon, veut faire tomber le président de la République. Peut-être y parviendra-t-il, en tout cas, sa première ministre. Moi, je sais pas. On va faire les comptes ce soir, on va regarder. Sinon, les motions de censure, en toute logique, ne devraient pas être votées. Mais je suis prudent quand même. Je vais regarder ce que prévoit M. de Courson.
Finalement, on fait les comptes non-stop depuis un mois et demi, en fait.
Hein. C'est en fait le plus petit groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, ils estiment que s'ils veulent faire voter à la fois la NUPES et le RN, parce que sans le vote de ces deux groupes, il n'y a pas de possibilité de renverser le gouvernement. C'est-à-dire que le LR ne fait l'arbitre que si les deux groupes, ces deux groupes-là, votent. Donc, lui pense que le plus simple, c'est effectivement d'être le plus petit dénominateur commun et de jouer le renversement du gouvernement sans proposition de nouveau gouvernement derrière. C'est-à-dire que derrière, vous avez une forme de chaos politique et de fait, la seule réponse à cette situation-là, c'est une dissolution qui risque fort de ramener à l'Assemblée à nouveau une absence totale de majorité. Donc là, on rentre dans des perspectives politiques.
C'est vrai qu'après, c'est l'inconnu quand même, si cette motion-là passe.
Redisons que l'addition RN-NUPES ne suffit pas à faire voter la motion. Donc c'est LR qui continue d'avoir. Alors pourquoi on prend les centristes ?
Je pense que LR ne votera pas, mais bon.
Parce qu'on prend les centristes en se disant ce que disait Olivier Faure tout à l'heure, c'est-à-dire eux peuvent aller chercher peut-être quelques voix à droite, ce qu'ils ne feront pas. Mais peut-être que certains la voteront. Et si ce que vous dites est vrai, je connais moins bien la droite que vous, mais si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on se prépare à une césure au sein de LR, peut-être que certains vont en profiter pour prendre position.
Elle existe déjà,
semble-t-il. Non, mais qu'elle s'exprime officiellement, oui. Je dirais institutionnellement. Ça voudrait dire que certains prendraient le flambeau de l'opposition à Emmanuel Macron et d'autres refuseraient de voter. Peut-être que ce sera aussi l'occasion d'une crise supplémentaire à LR qui avait finalement trouvé un semblant de cohérence autour de Ciotti parce qu'ils avaient quand même réussi leur coup. Mais là, c'est fini.
Là, c'est mort, archi mort. Il leur faut rapidement un leader et rapidement un programme. Je ne sais pas s'ils vont le trouver. J'ai ma petite idée sur la question.
Ça va être compliqué quand la gauche explique « nous ne voterons jamais » une motion proposée par le RN, mais s'ils se mettent à voter une motion de Liotte dans laquelle le RN est, plus personne ne va comprendre non plus le positionnement.
Non, c'est les mêmes voix qui vont
se
retrouver.
Tout le monde est dans une masse un peu compliquée.
Oui, tu as raison. Absolument.
Ça devait assainir la situation.
A priori,
finalement,
ça devrait. Bah oui, c'est
encore total.
A priori, ça devrait pas être voté.
Ça devrait pas passer.
Mais néanmoins, même si la motion de censure ou les motions de censure, aucune n'est votée, Le gouvernement de Mme Borne va ressortir de là très affaibli. En plus de ça, il n'y avait pas que ça. Il y avait la posture du garde des Sceaux, il y avait la posture du ministre de l'Éducation nationale. Il y avait des difficultés déjà qui sont dues aux choix qui ont été faits il y a un an. Hein. Pardonnez-moi.
Donc ça
commence à s'accumuler un peu.
Allez, on va se quitter sur ces mots, tandis que vous voyez cette manifestation spontanée qui est en train de grossir quelque peu en face de l'Assemblée. On est là aux abords de la place de la Concorde, tout près de l'Orangerie, au parc des Tuileries. Oui. Et dans un instant, la suite de la mobilisation, vous la vivrez avec Laurence Ferrari, puisque c'est le début de Punchline. À bientôt, à demain, pour ceux qui nous rejoignent dans 90 Minutes Info.
Selling a little? Or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.